BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigaudry.
Et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tout pour investir, votre TPI sur BFM Business, l'émission au service de votre argent qui vous aide à devenir de meilleurs investisseurs. Alors, au programme de notre première heure, pas mal de choses, pas mal de bourses. On a eu énormément d'actualités ces derniers jours. Retour sur l'info qui fait un petit peu bouger les marchés. On sera avec Félix Baron, fondateur du Club des investisseurs indépendants, Laurent Grassin, directeur des contenus chez Boursorama. Ils seront tous les deux avec nous. On parlera entre autres de ce premier coup de mou d'ampleur sur Nvidia, sur l'increvable Nvidia, la Rolls de la carte graphique, l'ex-première capitalisation boursière mondiale. Donc on va s'interroger un petit peu sur les signaux que ça envoie à l'ensemble du marché et de quelle manière ça peut être parlant de l'état d'esprit des investisseurs. Évidemment, on retrouvera Aude Kersulec à Euronext Paris pour commenter la bourse. On aura le match des traders aujourd'hui, Valentin Nicot de Bourse Direct contre Antoine Fraisse-Soulier d'Itoro. 10h30, évidemment, Nicolas Dose, votre dose d'économie comme tous les jours, de l'immobilier en deuxième heure, bien sûr, avec Marie Cœur de Roy et son invité du jour, Stéphane Briand du pôle immobilier de Net Investissement. Évidemment, au cœur de cette émission, vous, bien sûr, les auditeurs, les téléspectateurs, et vous avez la parole pour nous joindre en email, c'est direct@bfmbusiness.fr. Vous pouvez écrire à Lorraine Goumeau directement sur sa boîte privée sur LinkedIn ou nous envoyer un SMS au 732-16. Vous tapez le mot business juste avant, suivi de votre message dans le même texto. Tout de suite, on part à Euronext Paris pour faire un point sur la bourse.
Votre programme avec Salva Bagarance. Votre épargne autrement. Salva, ça va le faire. Salvalefaire.fr. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
Aude Kersulec à Euronext Paris. Alors bon, je vais lire les cours pour vous pendant que vous parlez, parce que je sais que vous avez un léger souci technique, ça doit être un petit problème de réseau, pas bien grave. Le CAC 40, plus 0,48%. On était au-dessus des 7700 points en début de séance, et puis là, on s'effrite un petit peu, on repasse légèrement en dessous. 7698 points, on sent que la semaine est en dents de scie, mais on s'apprête à la terminer quand même sur une tendance à peu près positive, si ça se maintient.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Bon, à tout à l'heure, Aude Kersulec, un petit point sur la bourse, rapide. Le CAC 40 plus 0,47%, on est donc à 7698 points. Beau rebond d'Eurofin Scientifique, ça fait la deuxième séance de hausse consécutive après quand même des séances très très turbulentes et l'annonce de cette étude de Muddy Waters sur d'éventuelles malversations, des accusations graves autour d'Eurofin Scientifique, évidemment qui ont été prises très très au sérieux puisque Muddy Waters a été au cœur de scandales qui ont été dévoilés alors autour de Solution 30, autour de Casino, bien sûr. Ça a été la mèche longue autour de cette affaire. Là, pour l'instant, Eurofin Scientifique continue de regagner un petit peu de terrain. Donc 3,3%, on est en tête des progressions du CAC 40 à 47,55 €. À noter Sanofi. Belle semaine pour Sanofi, de belles tendances positives, malgré la tendance générale qui était un peu en dents de scie. Le titre est bien orienté encore ce matin, plus 1,6%. On est à 92,33 €. Un coup d'œil sur les autres valeurs qui performent bien, mais on a quand même traîné de surperformance des technos. Alors ça, c'est à noter. On a un Euronext Tech Leaders qui surperforme les indices généraux du plus 0,96% là en ce moment, alors que le CAC 40 gagne 0,47%. Belle tendance positive autour de Dassault Systèmes qui prend 1% à 35,58 €. On a Capgemini aussi, plus 0,95% à 191,30 €. Et puis on en reparlera justement dans le journal de votre argent, le secteur bancaire qui continue de se refaire une santé. Alors peut-être parce qu'il y a quand même des perspectives autour de l'IA qui pourrait changer le métier de la banque. Ça, c'est plus une tendance de fond, mais on sent que là, il y a un vrai rattrapage après des semaines très compliquées, bien sûr, avec la politique, le résultat des élections européennes, la dissolution, tout ça a pesé très nettement sur le secteur bancaire qui se refait une petite santé en cette fin de semaine. À noter Vivendi qui gagne 0,23%, le secteur du luxe qui se porte pas trop mal, Kering gagne 0,6% à 327,20 €. À noter Bouygues qui signe la plus forte baisse du CAC 40 à moins 1,3%. On est à 30,40 €. 1,90. À noter ArcelorMittal qui recule de 0,73%, 21,73, Pernod Ricard moins 0,6% à 133 euros. Un petit coup d'œil hors indice sur l'indice SBF 120, c'est Elior qui signe la plus forte baisse à moins 2,2%, 2,87 euros. Et en tête, on revient sur Vusion Group qui gagne 4,5% à 132,30 €. Je voulais juste vous parler des taux parce que ça a été vraiment un enjeu sur l'ensemble de la semaine et c'est passé un mouvement qui était assez étonnant, c'est-à-dire qu'en début de séance, on avait des taux 10 ans français qui avaient tendance à reculer sous 3,1%. 3,1%, c'est vraiment un niveau important. C'est le niveau qu'on avait le vendredi juste avant les élections européennes et l'annonce de la dissolution. Et à chaque fois, en début de séance, on avait un taux qui s'apaisait, qui se contractait du côté de 3,09. Et à chaque fois, en milieu de journée, à l'approche de l'après-midi, ça remontait du côté de 3,12, 3,13, 3,14. Là, on est à 3,13 ce matin. Et on sentait véritablement que du côté des investisseurs américains, il y avait énormément de pression qui était mise sur nous. Un coup d'œil sur le spread, il reste stable, du côté des 70 points de base par rapport au Bund allemand 10 ans. On est à 2,42 là en ce moment. Donc, globalement, la situation reste globalement maîtrisée en attendant, évidemment, le résultat des élections législatives. Sur les matières premières, le Brent de Mer du Nord a légèrement corrigé. On était au-delà des 85 $ en ce milieu de semaine. Là, on a tendance à corriger à l'approche de la fin de semaine. On est à 84,44 $. Allez, le CAC, plus 0,49. On est à 7700 points. Et on va doucement se diriger vers le match des traders parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les aspects techniques du CAC 40 ce matin.
Tout pour investir. Le match des traders.
Et avec nous ce matin, Valentin Nico de Bourse Direct et Antoine Fraisse-Soulier d'Itoro. On va peut-être commencer avec vous, Antoine Fraisse-Soulier. Donc un CAC 40 qui a l'air de vouloir se tenir sur les 7700 points. Mais on sent que depuis le début de la semaine, c'est vraiment en dents de scie. Depuis la fin de semaine dernière, encore beaucoup d'instabilité. Mais des niveaux techniques qui sont assez identifiés parallèlement.
Oui, en effet, c'est vrai que le CAC 40 se stabilise maintenant. On a deux bornes assez larges, donc c'était le point bas du vendredi 14 juin, c'est 7470, et la borne haute c'est 7850. Donc on a quand même une bande assez large de fluctuations, mais on voit que il n'y a pas de mouvement de panique sur le CAC 40. On est vraiment dans l'expectative, évidemment, avec les deux échéances qui vont intervenir très prochainement. Et on voit même qu'on a des rachats à bon compte, puisque le on voit des valeurs qui rebondissent. Je pensais à du Air Liquide par exemple, ou des valeurs de fonds de portefeuille. En revanche, bon, c'est vrai qu'il y a des petits gadins, puisqu'on a vu Airbus hier qui avait perdu quasiment 10%. On sent qu'il y a quand même de la nervosité. On sent une certaine nervosité dans les marchés en général, d'ailleurs, puisqu'on a. Pas y revenir, mais bien sûr, vous avez vu qu'il y avait une correction qui s'était engagée sur les valeurs technologiques. Il y a aussi les valeurs traditionnelles qui se replient un petit peu. Donc, on est vraiment dans un marché en attente qui respire un petit peu parce qu'on est quand même sur des belles performances depuis le début de l'année pour l'ensemble des marchés développés. Même le CAC 40 est en hausse de 2% depuis le début de l'année. Donc, il n'y a pas encore péril dans la demeure, si je puis m'exprimer ainsi. Mais effectivement, en plus, on va terminer dans trois séances, c'est la fin du premier semestre. Donc, il n'y aura pas vraiment beaucoup de risques qui vont être pris. On aura des ajustements de portefeuille. Vendredi, on a les chiffres d'inflation qu'on va surveiller, bien évidemment, aux États-Unis, mais aussi en zone euro et en France. Mais d'ici là, je pense qu'on va évoluer de manière assez latérale. Alors sur le CAC 40, pour revenir sur les bandes de fluctuation un peu plus serrées en intraday, eh bien on a tout d'abord 7720, donc c'est le point haut d'hier. On est plus très loin. Si on dépassait 7720, on pourrait aller rejoindre pourquoi pas les 7850 dans une extension. En revanche, si on repassait sous les 7580, eh bien on pourrait revenir sous les plus bas d'il y a dizaines de jours à 7460, mais je n'y crois pas vraiment. Je pense qu'on va vraiment rester dans une bande de fluctuation assez étroite avant, évidemment, le premier tour des législatives.
Valentin Nico de Bourse Direct. Alors, vous avez à peu près les mêmes repères, un même sentiment sur la tendance, où vous sentez peut-être des choses venir, on le disait, à l'approche des élections, justement.
En effet, si on cadre un peu ce qui s'est passé dernièrement, on a eu 2 semaines de baisse qui nous ont emmené à 9% de correction. Sur ces 9%, on en a regagné 3 cette semaine. Et donc là, nous, on est plutôt sur une anticipation de latéralisation. Il y a eu des nouveaux risques qui ont clairement été pris dans le marché, dans les anticipations. De manière générale, techniquement, nous, on reste positif tant qu'on est au-dessus du pivot 7653, qui est un peu notre zone de décision. On avait donné une cible à 7740 pour le rebond, justement, le dernier rebond de 3%. On est arrivé sur cette zone. On corrige, on se reprend un peu ce matin. Maintenant, on n'a pas vu beaucoup de soutien sur la position ouverte, donc les marchés dérivés pendant le rebond également, ce qui ne nous a pas amené à avoir de super anticipations. Donc on va être quand même très, très vigilant sur les niveaux actuels, parce qu'encore une fois, sous les 7653, si on est en clôture en dessous, nous on envisage un retour encore une fois autour de la zone 7550. 7530 pour être exact. Donc il y a bien plus de risques en cas de cassure. Donc on est méfiant et actuellement on est plutôt sur une zone où nous on est couvert. Donc très méfiant sur ce marché avec des risques qui rendent la volatilité assez puissante par moment. Donc vraiment vigilance avec les beaux jours qui arrivent.
Oui, et puis on sent quand même toujours beaucoup de volatilité. Ça joue pas à tellement de points, hein, mais c'est vraiment des questions de tendance, hein, depuis la semaine dernière. On sent vraiment que les investisseurs sont relativement stressés. Allez, tout de suite, on passe au journal de votre argent.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Avec Laurent Grassin, directeur média chez Boursorama, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et puis avec nous, au milieu des montagnes suisses.
Encore ?
Oui, il y a encore. C'est Félix Baron, fondateur du Club des investisseurs indépendants. Merci pour ce bol d'air, on vous voit. Et franchement, ça fait du bien. Il y a de la verdure, c'est beau. Et dans ces marchés un petit peu secoués, on a quand même besoin de prendre des petites pauses comme ça. C'est quand même bien, donc... Bonheur à vous et on va parler d'énormément de sujets qui ont agité l'actualité boursière ces derniers temps. Laurent Grassin, j'ai peut-être commencé par vous. Incroyable, Nvidia, le super géant de la carte graphique, a son premier coup de mou. Ouais. Alors, coïncidence, ça arrive juste après qu'ils aient signé le top numéro 1 mondial des capitalisations boursières. Plus grosse entreprise du monde, devant Apple, devant Microsoft, devant Saudi Aramco, etc. Juste après, coup de mou. Bon, on peut penser à un mouvement technique. On voit d'ailleurs, je vois souvent passer, il y a des fils Twitter qui suivent un petit peu ce qui se passe au capital des entreprises. Il y a pas mal de responsables de chez Nvidia qui vendent un petit peu parce qu'ils ont gagné 10 milliards de pourcents.
C'est ça.
On est d'accord. Maintenant, est-ce qu'on a le vrai premier coup de mou autour d'Nvidia?
Alors, le problème avec Nvidia, c'est que, vous l'avez dit Antoine, c'est 3000 milliards. Donc, tout prend tout de suite des proportions assez
macroéconomiques.
Voilà, donc on se dit effectivement, ils ont perdu 13%, donc c'est 430 milliards de dollars perdus, évaporés, mon Dieu, incroyable. On rappelle, c'est 3 séances de baisse. Hein, et puis, une séance de baisse marquée autour de 7%. Et hier, ils ont fait plus 7%. Ils avaient mal commencé, d'ailleurs, la séance. Et puis, ils ont terminé en hausse. Donc, vous l'avez très justement dit, on est à un top, on a quand même signé un record. Il faut quand même faire des pauses de temps en temps. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de banques, d'analystes nous disent un petit peu en ce moment. C'est quand même pas trop mal de souffler, d'autant plus que finalement, on est dans cette période un petit peu creuse. On a eu les résultats trimestriels qu'on surveille. On a bien sûr les semestriels qu'on va regarder. On est à l'approche de l'été. On va avoir un petit peu moins de volume, un petit peu moins de volatilité comme quoi. Enfin non, un peu plus de volatilité, pardon. Ce qu'on voit aussi quand même... ce qui est assez intéressant, c'est de regarder si les vendeurs à découvert, puisque il semblerait-il, s'intéressent à l'action. Et on voit aujourd'hui que ils sont assez frileux, en fait. Ils ont vraiment peur de se faire prendre à contre-pied.
Ça leur est arrivé un paquet de fois. Il y a eu le cas Tesla avant où
exactement.
Ça a été un carnage.
Et donc, parce que finalement, la question, c'est est-ce que, voilà, on va rentrer dans une ère de plus de volatilité de Nvidia avec peut-être des mouvements où on va être moins dépendant des résultats et on va peut-être plus avoir, comme ça, des séances un peu plus marquées. Ouais. On voit bien quand même qu'il y a encore beaucoup de prudence. Comme vous l'avez dit, Antoine, il y a beaucoup de gens qui en ont dans leur portefeuille.
Ouais, bah oui.
Donc,
c'est un petit peu un benchmark en fait. On l'achète comme on achèterait du Nasdaq.
C'est ça,
comme
ça, exactement. Et après, ça pose aussi la question et plus générale, toujours du poids d'Nvidia maintenant dans la bourse américaine. Cette stat, hein, le S&P 500 14% depuis le début de l'année, les couilles pondérées plus 5 seulement. Ça veut dire que si Nvidia commence à tanguer, on va avoir l'impression que c'est toute la bourse américaine qui tangue.
J'avais lu au top, c'était 7% du S&P 500. Hein,
ouais. Sur l'importance que ça a. Donc, on voit ce que ça charrie. Après, sur un voilà, donc peut-être un petit peu plus de volatilité, pourquoi pas une espèce de cycle baissier qui serait engagé, j'y crois moins, d'autant que tout ce qu'on nous dit encore sur l'IA, c'est qu'on est encore dans cette première phase où les gens achètent de la puce. C'est pas fini.
Ouais.
Donc fondamentalement, les carnets de commandes, c'est pas comme si voilà, ils allaient se dégonfler du jour au lendemain. Ils sont encore là. Voilà, j'attendrai un peu avant de m'inquiéter pour Nvidia.
Pour ceux qui aiment la bagnole, on pense même pas encore à tuner le moteur, on finit juste de le construire.
C'est ça, c'est exactement ça.
Et voilà, on ouvre le capot, il y a marqué Nvidia partout. Ce que je vous dis, c'est.
Exactement.
Alors, Félix Baron, fondateur du club des investisseurs indépendants. Votre avis sur Nvidia? Est-ce que c'est finalement, voilà, justement le cadeau empoisonné, c'est-à-dire un truc macroéconomique qu'il faut avoir, mais sur lequel maintenant il va falloir être peut-être un tout petit peu plus vigilant qu'avant?
Bonjour Antoine. Moi, ce que je vois sur Nvidia, c'est que je préfère un dégonflement de la bulle toujours plus à un éclatement. Il y a un double sujet sur Nvidia. C'est d'abord celui de sa valorisation par rapport à la réalité du marché de l'intelligence artificielle. Et puis le deuxième sujet, c'est l'influence de Nvidia sur le Nasdaq. Laurent vient d'en parler. Évidemment, on voit que les analystes et tout le marché, la majorité du marché, préfèrent attribuer la baisse de Nvidia à une respiration. Les analystes Bank of America le disaient. Le juge de paix sur la valorisation de Nvidia, ça va être les prochains trimestriels. Tant qu'il y a de la croissance des revenus, ça va rassurer le marché, quel que soit le prix de Nvidia. Mais la réalité, c'est que si l'intelligence artificielle est incontestablement une technologie de rupture, on peut profiter un petit peu de la respiration qu'on a en ce moment pour savoir, pour se poser des questions sur ce que ça va donner dans les prochains trimestres, dans les prochaines années. Pour développer l'IA, il faut du temps. Ça, du temps, on en a, mais il faut aussi des capitaux pour développer les applications concrètes. Et ça, on en a beaucoup moins des capitaux. Sans faire le vieux routard de la bourse, on se disait pareil au début des années 2000. L'internet, c'est une technologie de rupture, ça va changer nos vies, mais personne ne s'en servait au quotidien. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est une technologie de rupture, mais on ne sait pas ce qu'on va en faire.
Alors, deuxième sujet hein, qui marque cette semaine boursière, gros coup de boue autour d'Eurofin,
oui.
Évidemment, avec le fonds Muddy Waters, les shorteurs qui font encore parler d'eux,
oui.
Révélation sur, alors c'est eux qui le disent, hein, une éventuelle structure qui favoriserait les malversations.
Oui, oui.
Bon, on a vu que le titre s'était quand même bien repris, mais loin d'avoir retrouvé ses niveaux d'avant, ces révélations, hein, d'il y a une journée et demie. Globalement, qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est une valeur du CAC 40.
C'est une valeur
n'importe
du CAC 40,
quoi. C'était
oui.
Un ancien grand espoir.
Oui.
Une valeur de la santé. Les valeurs qui sont regardées en ce moment, parce que, visiblement, au milieu de la tourmente actuelle, elles ont du potentiel.
Oui.
Bon, voilà.
Spécialiste de la bioanalyse, oui, et c'est vrai. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi, ça me laisse un goût un peu amer, Antoine, parce que finalement, on n'a jamais le fin mot, entre guillemets. Quand je me mets vraiment à la place d'un investisseur particulier, là, ouais. De ces histoires. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, il y a le cas Eurofins aujourd'hui, il y a eu le cas sur Solution 30 il y a quelques temps, toujours.
C'était eux, hein,
c'est toujours Muddy Waters à la baguette. On
ils
a
étaient
eu,
à la base de Casino.
Ils étaient à la base de Casino. Là, bon, il y avait des éléments qui étaient quand même plutôt pertinents.
Oui.
On pourrait citer l'ancien SES Imagota qui est devenu Vusion Group avec, cette fois-ci, c'était Gotham Research. Ouais, et je crois que Shadowfall avait un petit peu enfoncé aussi le point sur ces sociétés. Et quand on est investisseur particulier, on a donc une attaque où effectivement il y a beaucoup. Alors il y a un rapport, 36 pages, qui est quelquefois assez technique. Moi-même, y compris quelquefois sur certains, quand ils expliquent des fonctionnements comptables de société, je comprends pas tout, je vous l'avoue. Hein, il faut vraiment rentrer dans certaines choses. C'est très, très, très technique. Souvent, la société va répondre en niant en bloc, avec plus ou moins de précision. C'est finalement, alors il y a quelques fois des plaintes au pénal, mais dont on n'entend jamais la finalement in fine ce qui est tranché. Et vous êtes investisseur individuel, vous avez acheté dans la boîte, elle se prend un méga pion. Ça a été le cas pour Solution 30 qui a mis énormément de temps, ça va un petit peu mieux maintenant. On voit que sur Eurofins, il y a déjà un mouvement de contrebalancier. On voit aussi que sur Vision Group, ça s'était passé en deux temps. Au premier temps, il y avait une forte réaction et après, ça avait rebondi. Mais vous êtes un investisseur particulier, vous restez là avec vos doutes.
Ouais.
Et je trouve, alors, déjà, il y a deux choses. Je vais un peu renvoyer tout le monde dos à dos, c'est peut-être un peu facile. D'un côté, je trouve ça quand même assez dingue d'avoir cette liberté de parole, de balancer comme ça des infos et qu'à un moment, une autorité réglementaire, la MEF, vienne pas vous dire attendez,
manipulation
si,
de cours,
si vous attaquez, en plus, vous avez une position de vendeuse.
Ils ne sont jamais pris d'attaque.
Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu. Alors, il y a peut-être des choses dont on n'est pas au courant, mais ce serait intéressant de dire ok, maintenant, les gars, soit vous avez du lourd et vous nous en parlez et on va vraiment voir un petit peu si vous êtes aussi transparent dans votre façon de faire. Et de l'autre, quand vous êtes une société cotée, eh ben, si vous êtes vraiment sûr, à la limite, il faut presque faire du point par point et dire « Ok, on va, ok, vous nous dites ça, sur tel truc. Mmh. » Après, ce que nous dit Refin, c'est que quelquefois, ils ont le chic aussi pour aller retrouver des choses qui sont passées très longtemps en arrière, qui ont été corrigées depuis. Dans la vie d'une société, il s'en passe, effectivement.
Ça, oui.
Donc, voilà, moi, ça me laisse juste, je me mets dans la place d'un investisseur qui se retrouve, qui sait pas trop, qui s'est pris un gros mouvement sur son action. Finalement, Solution 30 est toujours là, il continue à faire des résultats. Eurofins, à mon avis, il sera encore là demain.
Ouais.
Et après, je pense que c'est quand même ce que j'appelle un signal faible. C'est toujours intéressant de s'y intéresser. Je veux pas non plus dire, c'est scandaleux. Ça vaut le coup de creuser, de regarder et de garder ça à l'esprit. Mais d'un côté comme de l'autre, ça manque de transparence.
Ouais, complètement. Et puis on entre aussi dans le cadre des titres un petit peu à la casse. Alors ça, on en parle depuis des semaines dans cette émission, mais qui constituent des opportunités parce qu'il y a de la volatilité. Et donc,
exactement.
Donc de l'intérêt des investisseurs. Félix Baron, Eurofins scientifique. On est quand même sur un gros nom. Ça vous a inquiété également ce mouvement fort et ces inquiétudes structurelles? Bon zut, on vous entend pas. Félix Baron.
On a perdu le son, Félix.
Ouais, vous avez dû couper le son. On vous entend? Ah d'accord, bon bah écoutez, c'est pas très grave. On va continuer, c'est le vent des montagnes. Ça a dû faire bouger le réseau. Il y a un dossier aussi qui m'intéresse beaucoup. Là, c'est vrai que ça fait 2-3 semaines qu'on a un beau redressement du secteur bancaire. C'est vrai qu'il a beaucoup souffert des résultats de l'élection européenne, l'annonce de la dissolution. Il y a eu de la pression à cause des mouvements sur le marché obligataire. Maintenant, il y a une thématique qui est sur toutes les lèvres pour le plus long terme, et c'est l'impact positif en termes d'activité. Là, je parle strictement en termes d'activité,
bien sûr,
de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est un petit peu le dernier secteur où on sent l'intelligence artificielle arriver, parce que c'est quand même la clientèle, confidentialité, données financières, etc.
Ouais.
Et on veut mettre l'ingrédient IA dedans. Selon vous, est-ce que c'est vraiment la dynamique de développement à suivre du moment obligatoirement?
Vous avez tout résumé, Antoine, j'ai plus rien à dire. Non, mais il y a les enjeux. Il y a les enjeux, il y a les besoins, il y a les contraintes.
Ouais.
Côté contraintes, on l'a dit, effectivement, quand vous êtes une banque, qu'est-ce que c'est votre trésor de guerre? C'est vos données clients. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable. Ce sont des données qui sont très précieuses et qui, quand vous les entraînez avec une IA, peuvent vous donner des choses, j'imagine, extrêmement intéressantes, avec toutes les contraintes. De confidentialité, de sécurité de la donnée, encore plus en Europe où on est plus réglementé. Ceci étant dit, et je suis sûr que vous l'avez vu passer comme moi, il y a cette étude de Citi qui est sortie sur la banque et les potentialités de l'IA. Et que nous dit Citi à l'échelle mondiale, il s'intéresse à l'échelle mondiale, les banques pourraient gonfler leurs profits de 170 milliards de dollars grâce à l'IA, donc c'est considérable. Échantillon a interrogé de 90 grands établissements financiers, et ce qui m'intéressait dans cette étude, c'est qu'ils expliquent qu'autour des deux tiers des heures de travail réalisées dans le secteur, 66% pour les banques, 62% pour l'assurance, représentent un grand potentiel, ou un très grand potentiel d'automatisation ou d'augmentation, c'est-à-dire que vous virez pas forcément des gens, mais vous avez des tâches qui se font plus vite, plus rapidement. On voit que quand vous êtes une banque, il y a beaucoup de process partout, quelquefois. Alors, ça peut aller de, par exemple, quand quelqu'un ouvre un compte, de la vérification des pièces d'identité, documents d'identité, d'un certain nombre d'éléments que vous devez analyser pour constituer un dossier de prêt, etc. On voit bien que dans ce cadre-là, l'utilisation de l'IA peut vous faire gagner du temps considérable, le tout avec des banques dont on sait qu'elles ont un enjeu d'efficacité, oui, parce que contrairement à ce qu'on entend souvent, oh, les banques super riches, bah, les marges sont pas si élevées que ça. Donc oui, je pense que vous savez qu'on s'intéresse à la vague de l'IA, on est d'abord sur NVIDIA, hein, puis on regarde les secteurs, et je pense que quelque part le secteur financier est pas très loin. D'ailleurs, la meilleure réponse à ça, c'est que les autorités réglementaires, elles aussi, commencent à regarder et dire, oh là, comment est-ce que vous allez déployer ça? Elles sentent bien qu'il y a du potentiel dans le secteur et peut-être matière à revalorisation boursière.
Alors, c'est marrant parce que quand on était sur les chiffres d'évaluation de Citi à 170 milliards de dollars, bon, je fais peut-être mon blasé, moi je sors.
Vous avez trouvé ça que c'était pas assez.
C'est ça.
Ouais.
C'est quand on voit Goldman Sachs qui nous dit, attention, la voiture autonome, c'est 500 milliards de marché à horizon 2035. Bon,
je suis d'accord.
Venir. Et 170 milliards, c'est marrant parce que pour moi, c'est un potentiel qui m'aurait paru totalement délirant, justement, sur l'activité bancaire, mais on sent justement le poids de, attention, c'est pas une activité comme les autres.
Ben, ce que je me dis aussi, c'est que, alors, c'est peut-être moins le cas aux États-Unis, mais peut-être plus en Europe, on est quand même décoté sur le secteur européen, donc faut voir d'où on part aussi. Encore une fois, là, on était sur Nvidia, où on regarde la valorisation incroyable des profits et tout. Sur les banques, notamment européennes, il y a une décote, donc on se dit bien que toute chose étant égale par ailleurs, et encore une fois, je pense qu'on en est qu'au début. Et ça, c'est un des grands enseignements des cas d'utilisation de l'IA. Je pense que pour le moment, on fait des choses. On a des scénarios et on n'a pas encore, je pense, dans certains secteurs, compris tout le potentiel. Donc, c'est 170 milliards, c'est vrai. Ça peut sembler un petit peu décevant. Mais je pense que mettez ça entre les mains d'ingénieurs un petit peu calés, un petit peu plus malins que moi, par exemple. Et je pense qu'ils peuvent vous sortir des trucs assez balèzes.
C'est les poupées gigognes, quoi.
Exactement.
On ouvre, tiens. Mais ça a été toujours l'histoire d'Nvidia, en plus.
Ouais.
Les affichages, le gaming, la crypto.
Après, c'est la seule contrainte, c'est la donnée. C'est la donnée, la réglementation. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire avec ces données clients? Et c'est bien aussi qu'il y ait des limites. Attention, là, je ne suis pas là pour dire, oh là là, quel dommage. C'est aussi ce qui fait une banque. C'est le respect de ces données clients.
On a essayé de rejoindre Félix Baron parce qu'apparemment les montagnes n'ont pas été très clémentes avec le réseau.
Bienvenue.
Juste,
il a tiré une ligne.
Juste peut-être un petit mot à dire. On était en train de parler des dynamiques de développement potentiel du secteur bancaire grâce à l'intelligence artificielle. Selon vous, c'est le catalyseur à suivre dans le secteur qui est en train de se rattraper d'un strict point de vue boursier là depuis une semaine et demie.
Oui, je pense que Laurent l'a bien dit, la nature même de l'activité bancaire, assurantielle et de marché de capitaux, c'est quand même le traitement de la donnée et la gestion du risque, ne serait-ce qu'avec les transactions passées sur des places de marché, sur des dossiers de sinistre d'assurance ou sur des dossiers de prêt ou du contrôle du niveau des risques bancaires. Et ça, c'est des activités où le potentiel d'automatisation par l'IA est le plus élevé. Il y a une étude qui a été faite par Citi et Accenture Research qui montre que sur le secteur bancaire, il y a un potentiel d'automatisation de 54%, 48% avec l'assurance, 40% avec les marchés de capitaux. C'est trois des potentiels les plus élevés parmi les quatre premiers. Il y a aussi l'énergie, mais typiquement, tous les secteurs qui ont des activités très liées à la gestion de la donnée sont techniquement et mécaniquement ceux qui seront, comme vous le disiez Antoine, avec un gros catalyseur sur une application d'intelligence artificielle.
Merci infiniment Félix Baron, c'était un petit peu compliqué techniquement, mais enfin on vous a eu quand même sur les sujets essentiels de la semaine. Fondateur du club des investisseurs indépendants, Laurent Grincin, directeur média chez Boursorama. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, restez à l'écoute de Tout pour investir. On sera avec Nicolas Dose, votre dose d'économie.
Tout pour investir, dose d'économie.
Pour investir, tout pour investir, TPI sur BFM Business. Dose, votre dose d'économie est servie sur un plateau. Donc après le débat d'hier sur TF1, vous avez dû regarder, je suppose, il y avait le foot également, mais il y avait le débat.
Oui.
Où en sommes-nous sur les retraites? Sérieusement, Nicolas.
C'est très brouillard, mais on en est au même point fondamentalement. Vous avez les deux blocs à droite et à gauche qui veulent abroger la dernière réforme des retraites. Ça veut dire bouger l'âge légal de 64 à 62 ans. J'ai bien dit l'âge légal, parce qu'hier, il y a eu de la confusion qui est venue se rajouter. Alors, du côté du RN, il y a une chose qui est quand même martelée maintenant, c'est qu'il y a un dispositif spécial carrière longue dès l'automne, celui qui a commencé avant 20 ans, qui a eu 40 ans de cotisation, pourra partir à 60 ans. avant la fin de cette année. Donc voilà, c'est clair, ça, au moins. Mais alors après, en fait, Jordan Bardella a évoqué plus l'âge de la retraite à taux plein que l'âge légal. C'est-à-dire qu'il a, lui, le nombre d'annuités de cotisation qu'il préconise, c'est 42 ans. Alors qu'au terme de la réforme Touraine, on va à 43,5, on doit être à 43,5 d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, voilà ce que dit Jordan Bardella hier dans le débat, à très grand public. Hein. On est toujours là à vouloir avoir des réponses très précises, avec des bornes d'âge très précises. Celui qui a commencé à bosser à 24 ans, vous rajoutez 42 annuités, il part à 66 ans en âge à taux plein.
Bah,
même si l'âge légal, oui, mais l'âge légal peut être à 62, c'est pas l'âge à taux plein. Et donc ce matin, c'était, mais c'est combien l'âge ? Alors il y a l'âge légal et l'âge à taux plein, parce que c'est pareil. Le nouveau Front populaire qui vous dit j'abroge pour revenir à 62 ans d'âge légal, et même avec un objectif à terme, le terme on ne sait pas quand, à 60 ans, on parle bien d'âge légal de départ. Ça ne veut pas dire que c'est l'âge auquel on part à taux plein. Ça dépend de l'âge auquel on a commencé à travailler, du nombre d'annuités qu'on a réussi à accumuler. Donc voilà où on en est ce matin. Et ne pas confondre âge légal et âge à taux plein. Après, c'est les deux blocs disent-ils régulièrement que tout ça verra le jour progressivement. Il y a le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps. C'est une forme, enfin bon, la prudence ne nuit pas, on va dire. Et sinon, sur l'ensemble des offres politiques, y compris au centre, on promet d'indexer les pensions en 2025 sur l'inflation, parce qu'on ne va pas froisser les électeurs à quelques jours du premier tour, évidemment. Et on sait que c'est une population qui se rend aux urnes.
Alors, avancer l'âge de la retraite à 62 ans, bon, voire 60 ans, est-ce que c'est possible économiquement désormais ?
Sans problème, c'est parfaitement possible. Moi, je dis aujourd'hui 58 ans. C'est possible économiquement.
Allons-y.
Ben non, voilà. Mais
là, après, il faut quantifier le risque.
Et ben voilà, donc l'histoire de la retraite est un sujet qui est bêtement arithmétique. J'ai combien d'actifs aujourd'hui qui font vivre combien de retraités ? Combien je prélève sur le salaire de ces actifs tous les mois pour verser combien aux retraités tous les mois ? Et quelle est la part de ma dépense publique que je peux me permettre de consacrer au financement de mon système de retraite ? Et on sait que la borne d'âge, quand on la bouge dans un sens ou dans un autre, chaque mouvement d'un an de borne d'âge, c'est 15 milliards d'euros, en plus ou en moins. Voilà, donc voilà les éléments arithmétiques. Mais pourquoi pas 58 ans
hein. Alors, gros chiffre. Tiens, quand vous aurez fini, j'ai un truc que je voulais vous dire depuis un petit moment, Nico.
La révélation.
C'est la révélation. Alors, aujourd'hui, la France dépense 14 points de PIB pour ses retraites.
Oui. Hein,
c'est 350 milliards d'euros par an.
C'est hyper important. C'est le principal poste de dépenses publiques qui nous différencie du reste du monde. Le principal, hein. Il n'y en a pas vraiment d'autres, c'est celui-là. On est à 4 points au-dessus de la plupart des pays qui nous ressemblent. 4 points, ça fait un peu plus de 100 milliards. Donc là, effectivement, on a un vrai sujet. Est-ce qu'on peut aller au-delà de 14 points de PIB consacrés aux retraites ? Sachant que même dans le système actuel, si on ne l'abrogeait pas, de toute façon, la facture ne peut qu'augmenter parce que le pays est en choc démographique et en vieillissement démographique. Donc, moi je dis oui, c'est possible. J'abroge la réforme des retraites. Je vais à 58 ans. Ça veut dire qu'en fait, abroger la réforme des retraites veut dire que je propose à l'ensemble de ma population un nouveau contrat social qui signifie on va travailler moins. Alors, très bien, on va travailler moins. Seulement, travailler moins, ça a un prix. Donc, économiquement, oui, c'est voilà. possible, mais si à côté de l'âge, on donne le prix. Voilà. Et donc, c'est quoi le prix ? Ben, vous voulez que collectivement, le choix collectif de la France, c'est de travailler moins. Et le prix, ce sera que les actifs devront payer davantage et probablement les retraités toucher moins. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est quand même, c'est ça l'histoire. Et donc, on peut vendre tout ce qu'on veut au bon peuple sur les retraites, sur les blocages de prix, sur la baisse de TVA, sur le retour de l'ISF en incluant l'outil de travail. Voilà. On peut vendre tout ce qu'on veut, mais à côté, on dit comment on fait, on dit quelles sont les conséquences, qu'est-ce que cela signifie. Si c'est un choix de travailler moins, on dit que ça a un prix. Si le choix, c'est de travailler moins jusqu'à 60, si c'est 58, oui, c'est possible, mais ça se paye. Et donc, on explique que ça a un prix et on est clair, net, précis sur qu'est-ce que ça signifie pour vous, tel choix, qu'est-ce que ça signifie dans vos vies. Voilà. Et donc, tout est possible dans la mesure où on donne l'ensemble des éléments. Quand vous achetez un produit, vous avez l'emballage, vous avez la composition du produit, vous aurez maintenant le Nutri-Score, vous aurez l'Eco-Score et vous avez le prix. Il y a tout. Voilà. Ben, quand on a tout, on sait ce qu'on achète. Là, pour l'instant, c'est un peu ce qui manque. Il manque des éléments sur le packaging et il manque le prix. Moi, après, ma conviction, c'est que, bon, évidemment, ma conviction, c'est que, aller à 62, 60, c'est 58, c'est de la provoque quand je vous dis ça. C'est anachronique par rapport au sens de l'histoire et, non, à l'évolution démographique.
Là, pour le coup, même si tout est possible, parce que ensuite, l'arbitrage, c'est les marchés qui le font, c'est les courbes de taux, c'est.
Oui, et puis en plus, effectivement, c'est une contre-réforme des retraites. C'est comme des réformes structurelles pour une nation comme la nôtre, il n'y en a pas 25 000. Il y a les retraites, il y a l'assurance chômage, il y a les gros postes, si vous voulez. Une contre-réforme des retraites pareil, ça envoie évidemment un signal de risque de non-soutenabilité de tout, de tout ce qui va autour. Parce qu'on peut pas aller à 16, 18 points de PIB, 20 points de PIB pour financer les retraites. On est à 14. Voilà, il y a un moment où alors on dit oui, ça aussi c'est possible. Alors à ce moment-là, il faut que les marchés soient super généreux. On a déjà une pension sur 10 payée par la dette. Si on doit monter à 3, 4, 5 pensions payées par la dette... Bon, moi, ma conviction, c'est que le système par répartition, là, il va vers sa fin. Il est plus tenable et donc on devra faire de la capille. Dommage qu'on n'ait pas lancé les fonds de pension à l'époque socialiste de la fin des années 90. Mais les Pays-Bas ont mis en place de la capitalisation de manière très poussée. Moralité, eux, ils mettent pas 14 points de PIB dans les retraites, mais 7. Et les pensions sont 30% supérieures aux pensions françaises.
Ok, bon. Ce qui m'amène à ma petite question.
Alors,
bonus,
la petite question.
Nicolas. Alors, en plus, je vous avais écrit un mail, vous m'avez pas répondu.
À quel sujet?
C'était... le choc sur les taux de la dissolution, l'instabilité politique en France, vous êtes mis à comparer ça dans votre émission au choc qui a eu lieu au Royaume-Uni.
Ah oui, le Royaume-Uni, en 2022, à l'automne. Oui.
Le FMI aux portes de Londres, machin et tout. Pourquoi?
Ben c'était parce que le pays était rattrapé par le marché, il y avait un risque de survie pour les fonds de pension britanniques.
Mais c'est ça.
Oui.
Tous les fonds de pension britanniques explosaient.
Oui, la Banque d'Angleterre est intervenue pour éviter l'Armageddon.
Exactement.
On est bien d'accord. Oui, mais on n'est pas obligé d'annoncer des programmes économiques avec des trucs complètement lunaires pour qui allument le feu. Moi, je veux bien, mais...
Et le jour où la Banque Nationale Suisse décide de dépeguer le dollar et où ça met un bazar insensé sur les marchés,
je me souviens.
Les fonds de pension... c'est vraiment la martingale, c'est vraiment ce qui va nous sortir de notre dépendance au système de retraite par répartition. C'est chaud quand même.
Il s'agit absolument pas de remplacer la répartition. Il faudra mettre de la capille à côté. Tout le monde le fait. J'entendais ce matin sur BFM TV une jeune femme de je sais plus où là, la ville de du Sopt, qui était au SMIC et qui disait qu'elle mettait de l'argent de côté malgré son SMIC pour préparer sa retraite parce qu'elle se rend bien compte que le système par répartition, il commence à craquer un peu de tous côtés. Mmh. Voilà, on n'est pas obligé de faire des erreurs de politique monétaire ou des erreurs politique qui allume des incendies. Si on n'en fait pas, sur le long terme, normalement, on doit pouvoir rendre soutenable un système de retraite avec un peu de capi et de la répartition. En tout cas, la répartition, quand on va vers du... On est à 1,7 actif pour un retraité. Le jour où on a un actif pour un retraité, ça veut dire que sur chaque bulletin de salaire, on prélève l'intégralité d'une pension pour la verser à un retraité. Bon.
C'est chaud, mais c'est un choix politique.
En tout cas, on peut raconter ce qu'on veut, mais on donne tous les éléments les éléments d'info, y compris le prix, y compris la composition. Et c'est vrai que là, la composition des réformes de retraite qui nous sont proposées, la liste des ingrédients n'est pas complètement finie. Alors le prix, il n'est pas là.
Ouais, ça, on peut pas se faire l'idée. Merci Nicolas,
voilà.
C'était très intéressant.
Merci.
C'était cool. Tout de suite, en portefeuille.
Tout pour investir. En portefeuille.
Et en portefeuille, qu'est-ce qu'on met? Réponse avec Jérôme Fauvel, cofondateur de JF Conseil. Bonjour.
Bonjour.
On en parlait justement hors antenne. C'est vrai que c'est deux histoires... alors, on classe ça dans les biotech, rapidement, parce que voilà, c'était le mauvais lit à l'époque. Mais on a deux titres liés au secteur de la santé. C'est vrai qu'ils sont fascinants, qu'ils sont sur de la technologie médicale au service de l'humain. Donc, Mauna Kea, et puis alors, nanobiotique, ça fait des années qu'on en parle. Parlez-nous un petit peu...
Mais comme Mauna Kea, ça fait également des années.
Oui, c'est vrai que c'est des titres...
Ils sont introduits à peu près à un an près, 2011 pour l'un et 2012
alors,
pour l'autre.
Alors, l'histoire, c'est quoi pour vous, justement, d'avoir ça, justement...
De Mauna Kea, donc ce que je vais dire, je le tient du fondateur il y a presque une décennie, c'est-à-dire que dans l'espace, un trou noir, ça ne se voit pas. Je parle de Mauna Kea. Un trou noir, ça ne se voit pas, on le déduit par les étoiles qui sont englouties dans ce trou noir.
Par les calculs gravitationnels.
Donc, en tout cas, Monsieur Sacha Loiseau, qui est le fondateur de Mauna Kea, donc en 2000, et qui était auparavant astrophysicien à la NASA, a conçu un appareil selon un principe qui lui est cher, c'est-à-dire avoir une vision précise et claire de ce qui est invisible à l'œil nu. Et donc, de là est né le premier Salvisio laser, son produit, qui, en fait, permet d'avoir une imagerie de l'ensemble des cellules, un système d'imagerie qui permet de voir les cellules d'une manière très assez précise, grossie et en temps réel, et qui permet surtout de détecter d'une manière très très précoce les cellules cancéreuses qui sont juste en dessous de la peau. Donc c'est
le trou noir
avant que ça ne se voit avec une radio. dans son monsieur Loiseau donc a inventé ce système. Et tout au début, en fait, il était surtout destiné à l'intestin. Ensuite, ça a été l'œsophage. Ensuite, ça a été l'estomac. Et maintenant, il est utilisé pour détecter, par exemple, des nodules pulmonaires qui ont cette particularité de ne pas pouvoir être détecté par une radiologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal de malignité de la part de ces nodules. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, Monakea a sorti un système, toujours avec le Cellvisio, mais basé sur l'intelligence artificielle, c'est le mot magique en bourse.
Storytelling.
Donc, voilà. Qui, en fait, permet de détecter des kystes pancréatiques et qui sont bien souvent... source de cancer. Et donc, la société a également un autre produit qui devrait venir dès 2028, donner à peu près 50 millions de chiffre d'affaires, c'est l'intolérance alimentaire.
Oui, donc ça c'est aussi une dynamique de développement absolument incroyable. C'est avec les cancers, avec la lutte contre l'obésité, les intolérances, c'est le driver du moment pour l'industrie pharmaceutique et pour les sociétés liées à la santé.
Exactement. Donc il y a deux produits majeurs qui vont certainement bien profiter à la société en matière de croissance. Donc la société a 250 brevets. Donc elle a été cotée en 2011, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec pour la première fois de son histoire un EBITDA positif. C'est la première fois qu'il y a un EBITDA positif, et surtout d'1,2 million pour un chiffre d'affaires de 10,5 millions, qui est le deuxième chiffre d'affaires de son histoire. Et pour 2024, en fait, la société anticipe une croissance de l'ordre de 20%. Donc ça continue, si je puis dire. Alors, terminons en indiquant que la société, en fait, a vu arriver des actionnaires importants du type Johnson & Johnson qui a pris 18% du capital entre 2019 et 2021. Et d'autre part, en 2023, il y a eu deux choses importantes. C'est Telix, c'est un groupe australien qui a pris 19% du capital. Et également, la société a vendu un accord de licence à une société chinoise pour environ 9 millions. Juste en conclusion sur cette valeur... Pour ceux qui m'écoutent depuis quelques mois, presque un an, en fait, je parle quelquefois de valeur de remplacement. Valeur de remplacement, ça veut dire que ça donne une valeur de... C'est-à-dire, si quelqu'un voulait faire la même chose, combien faudrait-il qu'il dépense ? Oui. Et donc, il faut savoir que la société a dépensé depuis le début 120 millions et la capitalisation est de 24 millions seulement. Donc, c'est Johnson, c'est certainement quelque chose d'important pour l'histoire de la société.
Alors, un tout dernier petit mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, sur Nanobiotics. C'est une valeur aussi qu'on regarde depuis très longtemps et qui, là aussi, est à la pointe de l'innovation.
Oui, alors donc, en fait, pour aller très, très vite, en fait, c'est M. Lévy, donc, parce que souvent, sur ce type de société, ce sont les dirigeants qui ont une très, très grande importance. Donc, a eu une nouvelle approche thérapeutique qui est entièrement brevetée sur les nanoparticules. Et donc, dans le cadre de nanobiotiques, ça s'appelle les nano X-ray. Donc, en cancérologie, il faut savoir que la radiothérapie est la base du soin des tumeurs pour les diminuer ou les éliminer. Et en fait, 50% des patients atteints de cancer sont obligés de passer par la radiothérapie. Donc, les nanoparticules de nanobiotiques ont été conçues pour augmenter la dose de rayon X dans la tumeur, c'est-à-dire qu'on injecte un produit, le NBTXR3 exactement, dans la tumeur. Et en fait, il y a un double avantage. Non seulement les rayons X sont focalisés sur la tumeur, donc peuvent détruire la tumeur plus facilement, et d'autre part, comme les rayons X sont focalisés sur la tumeur, ils ne vont pas dans les corps sains qui sont juste à côté. La société a traité son premier patient en 2011. En 2019, première autorisation de mise sur le marché pour le cancer des tissus mous. Et en date d'aujourd'hui, donc, il y a plusieurs possibilités, notamment sur le cancer de la prostate, du foie, du pancréas, du poumon. Et surtout, c'est là où c'est le plus avancé sur les tumeurs solides du tête et cou. Et en fait, je terminerai rapidement là-dessus. Donc, a signé en juillet 2023 un accord avec Janssen, qui est une filiale de Johnson & Johnson.
Fait, oui.
On retrouve Johnson, c'est le point commun peut-être entre les deux.
Fait, oui.
Donc, qui en fait permet, c'est une licence qui permet le co-développement et la commercialisation du produit. Nanobiotics garde un certain nombre de choses, la fabrication, l'approvisionnement et le contrôle opérationnel, sauf pour un produit, le cancer du poumon. Et je terminerai là-dessus. Donc la société a touché des fonds de la part de Janssen, et au 31 mars 2024, la société affichait pratiquement 59 millions de trésors, lui permettant d'avoir une visibilité jusqu'au troisième trimestre 2025. Il faut savoir que si tout se passe correctement, Nanobiotics pourrait toucher 2,7 milliards de dollars d'intéressement, de royalties. Ouais.
Merci Jérôme Fauvel. Donc Mauna Kea et Nanobiotics, vraiment deux très belles histoires à regarder en bourse, deux très belles histoires de développement médical. Merci Jérôme Fauvel, fondateur de JF Conseil. Dans un instant, on retrouve votre coach.
Tout pour investir, le coach.
Alors, on retrouve votre coach. Votre coach ce matin, c'est Benjamin Watin, fondateur de SoWeFun. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc qui est destructeur, on va dire, ce sont les tabous au sujet de l'argent. Parce qu'à force de ne pas en parler, on le gère n'importe comment. Donc voilà, est-ce que, selon vous, l'argent est appelé à devenir un sujet de moins en moins tabou et de moins en moins crispant, finalement ?
C'est vrai que il y a une vraie réticence des Français à parler d'argent. C'est quelque chose qui est, c'est un phénomène qui est culturel, qui est profond chez nous, les Français. Ça part de phénomènes culturels historiques, sociaux et psychologiques. Les Français n'ont pas envie de parler d'argent parce que l'Église était, par exemple, très influente à l'époque et a invité à garder un peu de modestie, à ne pas étaler son argent. Donc en passant par l'Église, la Révolution française, jusqu'à aujourd'hui, le tabou social qui est, vous et moi, en tout cas, je ne le sais pas, mais moi, dans mon enfance, on m'invitait, on disait que parler d'argent, c'était impoli, voire vulgaire.
Oui.
Eh bien, ça crée un certain nombre de tabous. Heureusement, la parole se libère, et c'est la bonne nouvelle du jour. Elle se libère de plus en plus grâce à des émissions comme la vôtre, grâce à des émissions plus grand public, comme Qui veut être mon associé, par exemple, où on parle de start-up, d'entrepreneurs, et on essaye de promouvoir l'entrepreneuriat, l'innovation. Et puis, il y a aussi ces acteurs, des réseaux sociaux, ces influenceurs. Vous recevez sur ce plateau des Yoann Lopez avec sa newsletter Snowball, ou des influenceuses richissimes qui sont des youtubeuses. Bref, plein d'initiatives qui font que ça fonctionne de mieux en mieux et qu'on parle de plus en plus d'argent, et c'est important parce que c'est ce qui va permettre aux Français, eh bien, de préparer leur avenir, le financement des études de leurs enfants, la retraite, l'achat de la maison.
Bien, on a de nouveaux acteurs quand même qui étaient jusque-là assez discrets dans le domaine de la gestion. Je parle de la gestion active.
Bien sûr.
C'était les femmes et les plus jeunes. Finalement, c'est un truc de vieux. Là, parler d'argent, gérer son argent, c'est un truc de vieux dans l'intellect. Bah non, plus du tout. C'est terminé, et c'est surtout, avant tout, un truc de femme maintenant.
Eh bien, heureusement déjà. Mmh. Et en effet, les femmes s'emparent de plus en plus du sujet. À en voir le grand succès justement de newsletters comme Vox ou Plan Cash aussi, que vous recevez sur ce plateau.
Oui, ouais, tout à fait.
C'est hyper important. Ça permet, on espère, ça leur permet une plus grande autonomie financière et demain une place plus importante, plus inclusive dans notre société, dans le monde économique. Pareil pour les jeunes qui s'emparent aussi du sujet avec d'autres acteurs. Ça va être sur des TikTok, des influenceurs TikTok ou des influenceurs YouTube. Bref, ça va vraiment dans le bon sens.
Y a un intérêt, vous semblez penser, de plus en plus pour le private equity, pour la prise de risque. Alors ça, c'est marrant parce que le premier truc moi, auquel je pense bêtement, bon, je vais aller regarder en bourse, il y a quelques bonnes affaires à faire. Ben non, pas forcément. Là, il y a des dynamiques de développement supplémentaires, selon vous, là-dessus.
Ce qui est intéressant, c'est que justement, avec toute cette éducation financière, on s'intéresse de plus en plus à toutes les classes d'actifs. Et un chiffre important avant de parler de private equity, ce qui est incroyable, on vient d'entendre mon confrère juste avant parler de valeurs boursières, et vous êtes très bien placé là-dessus. Il faut savoir que 12% des Français détiennent des crypto-monnaies, des crypto-actifs, les bitcoins,
oui, c'est assez
Ether,
fou, ça, ouais.
Face à 7% de Français dans les actions.
Ouais.
Donc ça, déjà, c'est assez incroyable. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose, je ne vais pas me positionner là-dessus aujourd'hui.
Non, parce que après, ça existe. Voilà.
Exactement. Ouais. Ce qui est vraiment très intéressant, par contre, c'est que je pense que, personnellement que ça a beaucoup participé à l'éducation financière de la jeunesse et que, justement, ça leur permet de mieux comprendre comment les finances fonctionnent et d'être amené à prendre des risques. Et si on revient au private equity, ben on voit que le private equity est une classe d'actifs qui, sur les 10 dernières années, a été plus rentable que les actions, puisque 14% versus 8%, je crois, pour les actions, et 6% pour l'investissement locatif.
Oui, parce que nécessairement, en plus, le private equity, on n'a pas de valeur de marché, on n'a pas de benchmark. Quels supports, finalement, sont les plus employés du côté du private equity pour les investisseurs particuliers ?
Aujourd'hui, il y a différents supports. En tant qu'investisseur particulier, vous pouvez vous adresser, grâce à ces nouvelles fintech et ces plateformes de financement participatif, d'abord, vous pouvez vous appuyer sur des nouvelles sociétés qui viennent de lever pas mal de financement, comme Ramify ou des Moonfair, qui vous donnent accès, en fait, à des fonds de fonds, à des montants relativement accessibles. On parle quand même d'une trentaine de milliers ou cinquantaine de milliers d'euros.
Ouais.
Puis après, vous avez les acteurs comme SoWeFund, les plateformes d'investissement participatif qui vous permettent d'avoir accès à des dossiers à partir de 500 euros, 1000 euros. C'est ça qui est vraiment intéressant et qui a participé à la démocratisation, quelque part, de ce secteur. C'est vraiment rendre accessible le financement. Grâce à quoi ? Grâce au fait qu'on peut y avoir accès en ligne, donc on n'a pas besoin d'aller voir un conseiller pour avoir accès à ce produit. C'est de pouvoir investir à partir de montants accessibles, 500 euros, 1000 euros dans des projets. C'est la diversification de tous ces, de tout ce portefeuille auquel vous pouvez avoir accès. Et ce qui est important aussi, et ça c'est un élément différenciant, c'est la transparence. La transparence qu'on a aujourd'hui avec ces plateformes où sur SoWeFund vous allez avoir accès au business plan de l'entrepreneur, au CV des entrepreneurs,
j'ai vous dire, vaut mieux, parce que vous êtes en train de nous expliquer, et c'est très bien justement qu'on a accès à plus d'instruments, plus de solutions d'investissement. Bon, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas risquées pour autant. Si on regarde bien, là, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le Bitcoin est quand même passé de 63 000 à 56 000 en deux jours.
Ouais.
Bon, faut quand même être prudent sur cette classe d'actifs. Mais malgré tout, vous pensez que étendre l'accessibilité à ces solutions d'investissement, c'est, d'une manière ou d'une autre, accentuer la culture économique de ceux qui épargnent.
C'est accentuer la culture, et puis on voit bien que les Français ont envie de donner du sens à leur épargne. Ils veulent savoir où va leur argent, et ça c'est quelque chose qui leur est proposé sur des plateformes, sur des différents acteurs et différentes fintechs. On veut plus de transparence, les Français veulent plus de transparence. Et puis pour limiter ce risque, il faut le rappeler, et il faut diversifier un maximum. Un élément de réassurance potentiel est aussi d'investir aux côtés de professionnels du secteur. Bref, il y a de quoi faire avec le non-coté. C'est quand même une valeur qui a démontré qu'elle était solide et très rentable, et pas de risque, pas de rendement.
Ça, c'est évident, hein, que ce soit le coté, le non-coté, les cryptos. Enfin, les cryptos, le rendement, c'est encore autre chose, c'est assez technique. Benjamin Watine, fondateur de SoWeFund, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Deuxième heure de Tout pour investir dans quelques instants. On se retrouve pour parler notamment immobilier. On va retrouver Marie Cœur de Roy et son invité du jour, Stéphane Briand, du pôle immobilier de Net Investissement. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Et bienvenue pour cette deuxième heure de Tout pour investir, votre TPI sur BFM Business. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, en podcast. Et évidemment, deuxième heure de TPI, ça signifie grosse page immobilier avec Marie Cœur de Roy. Et on sera aussi avec Stéphane Briand du pôle immobilier de Net Investissement. Tout à l'heure, Romain Joudelat, cofondateur de Colbert, répondra à toutes vos questions. On parlera évidemment un petit peu crypto avec Amaury de Tonquédec qui nous rejoindra en fin de tranche. Et puis, bien sûr, vous avez la parole tout au long de l'émission. Vous nous joignez par mail direct à bfmbusiness.fr. LinkedIn, hein, aussi, vous écrivez sur la boîte privée de Lorraine Boumeau. Elle répondra aussi à vos questions. Puis, vous pouvez nous envoyer un SMS au 73216. Posez votre question et juste avant, vous mettez le mot-clé « business ». Allez, tout de suite, on part à Euronext rejoindre Aude Kersulek. Aude Kersulek, qu'on a retrouvé, on avait eu des petits problèmes en première heure. Plus 0,23% pour le CAC 40. Bon, on est toujours sur une tendance positive, mais pas trop de conviction. On est à 7679 points en ce moment.
Là, on avait récupéré les 7700 à l'ouverture et comme quoi le rebond du matin s'essouffle déjà. Déjà parce que c'est vrai que ça allait quand même bien hier du côté de Wall Street grâce à Nvidia. Ça allait bien ce matin aussi du côté du Japon avec les valeurs semi-conducteurs qui remontaient et qui faisaient monter le Nikkei de plus de 1%. On pensait quand même avoir ça aussi du côté de l'Europe. Bah, c'est pas tellement ça. Alors, on a les valeurs tech parisiennes qui sont du bon côté du tableau. Dassault Systèmes qui prend 1,1%, Capgemini qui prend également 1%, tout comme Téléperformance, mais c'est pas suffisant pour drainer l'indice. Le luxe est peut-être pas encore assez présent, même si Hermès ou Kering prennent seulement 0,4%. Donc ça reste encore trop incertain. Et puis aussi, c'est vrai, il y a eu un oiseau de mauvais augure ce matin qui est venu de loin, qui est venu d'Australie. C'était l'inflation australienne qui était plus forte qu'espérée. Alors, de 2/10, pas de beaucoup, mais en tout cas, ça a suffi là-bas pour faire reparler, non pas éloigner les baisses de taux, mais même reparler de hausse de taux. Donc, c'est sûr que ça a amené un élan plutôt négatif qui pourrait se répercuter sur Wall Street aussi dans la journée, parce que vous savez qu'on attend en fin de semaine l'inflation américaine, l'indice PCE qui devrait sortir vendredi, et qu'en attendant, ben, on évolue un peu sur des œufs en faisant attention un petit peu à tout ce qui bouge. Alors, tout ce qui bouge, c'est vrai qu'en France, c'est aussi beaucoup tout ce qui peut être politique, tout ce qui peut être aussi industriel. On l'a vu hier avec Airbus qui avait beaucoup pesé sur l'indice. Airbus qui se reprend aujourd'hui après avoir perdu 9%, on est à plus 0,9%. Et puis, du côté du SBF 120, on n'a pas de très forte hausse ni de très forte baisse. À signaler d'ailleurs que Atos avait ouvert en très forte baisse et que finalement, bah, ça a semblé s'équilibrer après les nouvelles du matin. Donc, David Lagnani qui abandonne et Daniel Kretinsky qui veut revenir dans le jeu, donc peut-être que ça rassure les investisseurs et finalement pas de grosse catastrophe. Voilà, donc on peut regarder aussi ce qui se passe sur l'obligataire avec le spread OAT Bund qui est toujours stable à 70 points de base, tout juste encore 3,13% pour le 10 ans français, et l'euro dollar qui vaut 1,0698, tout juste passé sous les 1,07$. Donc le CAC 40 qui monte pas tout doucement de 0,2% et 7680 points, Antoine.
Allez, tout de suite, on passe à votre histoire. Aude, on vous retrouve tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.
Et donc, votre histoire, les cryptos et les candidats à l'élection législative. On entend très peu parler de crypto, on entend beaucoup plus du côté des États-Unis, hein, bien évidemment, mais le sujet est remarquablement absent de la campagne électorale.
Ouais, c'est sûr, on peut pas dire que ça a émergé dans le débat, par exemple le débat d'hier, non, pas du tout, mais on va quand même faire un tour d'horizon de ce que pensent les principaux partis. Alors par exemple, on peut commencer par la France insoumise. Donc ce ne sont pas des amis, hein, des crypto-monnaies. Pour eux, ce sont des outils de spéculation, donc à encadrer fortement et puis à imposer, hein, s'il y a des plus-values. Ça favorise pas en clair l'émancipation des populations et en plus ça profite aux plus riches. Donc crypto, marché financier pour LFI, c'est un peu le même combat et ça n'est pas forcément conseillé. Pour le RN, l'autre extrême, c'est comme souvent pour ce parti, c'est quand même un petit peu flou pour savoir ce qu'ils en pensent vraiment. Alors le parti voit quand même les cryptos comme un moyen potentiel de contourner les systèmes financiers traditionnels, donc aussi les élites mondialisées. Donc ce côté populiste, forcément il plaît un petit peu à ce parti-là, mais en même temps, les cryptos, ça veut aussi dire la criminalité, et donc il faudrait aussi les encadrer et les réguler, mais c'est pas du tout présent dans le programme actuel en ce moment du Rassemblement National. C'est d'ailleurs pareil chez les Républicains, il y a quand même d'autres préoccupations pour eux en ce moment. Alors, pour le parti présidentiel, les cryptos, on en parle un petit peu plus, même s'il y a un changement peut-être de mentalité depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, où on parlait davantage de réguler ces crypto-monnaies. Alors, ce qui est vrai, c'est que MiCA est passé par là, le règlement européen, donc l'Europe a déjà régulé. Et maintenant, ce qu'on peut lire dans le programme d'ensemble, donc de la majorité présidentielle, c'est qu'il est question de développer les usages de la blockchain et des actifs numériques. Donc, à signaler quand quand même. C'est vrai qu'on ne parle pas de crypto-monnaie à proprement parler, mais d'actifs numériques. Donc voilà, petit sujet sur la dénomination.
Merci Aude, on vous retrouve à midi dans BFM Business avec vous pour un prochain point sur la bourse. Et bien sûr, on va commencer notre grosse page immobilier dans TPI. À tout de suite.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
Marie Cœur de Roy, notre spécialiste immobilier maison. Bonjour Marie.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Et avec nous, Steven Briand du pôle immobilier de Net Investissement.
Tout à fait, bonjour Antoine. Bonjour.
Alors,
Marie.
Salut,
les thématiques du moment, bon évidemment tout est centré autour de l'actualité politique de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui ressort, quelles sont les grandes thématiques qui...
Alors déjà nous on va faire notre match avec Steven, mais d'ailleurs j'aimerais bien relancer un peu le sujet et peut-être Steven pourrait, je le prends un peu par surprise là au démarrage de cette émission.
Allez, tiens, paf.
J'ai un petit coup de gueule, alors je sais que je me permets de le faire parce que je suis à l'antenne et voilà, sur l'absence ou le peu de présence de ces questions du logement au cœur de cette campagne, bien qu'il y ait des mesures quand même éparses des trois blocs majoritaires aujourd'hui. Le sujet quand même logement et notre manière de regarder localement pour qui on vote en fonction de notre logement. Je pense que ce serait intéressant un jour qu'on se penche là-dessus, Stéphane, je ne sais pas si on a la capacité de le faire, de voir où votent les gens en fonction de la qualité de leur logement et de leur capacité à trouver un logement abordable et de bonne qualité. Je pense notamment évidemment aux performances énergétiques de nos logements.
Bien sûr, ouais.
Mais ça sera un vrai sujet parce qu'à un moment donné, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que le logement, c'est votre principal poste de dépense, que vous soyez locataire ou propriétaire avec des remboursements de mensualité de crédit. Ça pèse parfois 50% de vos revenus. Hein. Ouais, et donc on en parle un peu trop peu. On rappelle que de notre logement dépend beaucoup de choses, notre sécurité dans l'endroit où on vit.
Le besoin primaire, le besoin de se loger.
Exactement. L'éducation des enfants, la capacité d'avoir une chambre pour chacun de nos enfants, avec un bureau pour travailler, les cohabitations subies, hein, que ce soit des violences psychologiques ou des violences physiques. Donc à un moment donné, s'il y a 2-3 élus qui nous écoutent, qui se posent la question de savoir pour qui voterait votre électorat s'ils étaient bien logés. Voilà.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un travail d'analyse à faire qui va être assez long, mais on pourra en effet s'y pencher sur un prochain match, de voir en effet quel impact il peut y avoir d'un point de vue politique sur le logement. Mais c'est vrai que ce coup de gueule, on comprend Marie, puisqu'il n'y a pas eu réellement, je dirais, de débat sérieux, en tout cas et concret, sur la politique du logement en France.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans les programmes, mais c'est vrai que dans les émissions de débat qu'on peut
personne
regarder... Là, vraiment, on a. Et puis, alors, c'est vrai qu'on a ce vieux cliché dont vous parlez tout le temps, Marie, mais qui reste quand même d'actualité, c'est cette considération de un maire qui construit, c'est un maire qui perd les élections.
Bah, plus aujourd'hui, à mon avis.
Et ben voilà. Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Il faudrait revoir tout ça. Parce que, a priori, au niveau local, au niveau de toutes les initiatives dont on parle tout le temps, d'habitat mixte, de solutions un petit peu innovantes pour se loger, là, il y a franchement des arguments pour se faire élire. Là,
Juste d'un mot, parce qu'après, on va m'accuser de faire le jeu de certains ou pas. Je rappelle les principales mesures des trois blocs en présence. Donc, on a l'extrême droite qui, elle, propose une espèce de prêt à taux zéro de 100 000 euros pour les jeunes couples qui pourraient potentiellement devenir partiellement un don à la naissance d'un troisième enfant. Donc vous n'auriez à rembourser que 40% de ce PTZ de 100 000 euros. Voilà pour le RN. Du côté de Gabriel Attal et de la majorité sortante, on a une proposition d'une suppression des frais de notaire pour les primo-accédants jusqu'à 250 000 euros. On rappelle que quand on parle de frais de notaire, là on parle exclusivement des droits de mutation à titre onéreux, donc de la barre qui va aux collectivités locales. Et puis du côté de la gauche et du nouveau Front Populaire, on a là aussi la promesse d'un renforcement du prêt à taux zéro sur tout le territoire pour l'achat dans le neuf comme dans l'ancien. On n'a pas de chiffre précis ni les conditions de ressources. En revanche, sur le marché locatif, je tiens à insister là-dessus, on est sur une crise historique du marché locatif. On n'a rien ou peu du côté du RN, à part une remise en cause des calendriers pour les passoires thermiques, rien du tout du côté de la majorité sortante. Et pour le coup, en dépit de toutes mes opinions politiques, on a pas mal de propositions du côté de la gauche, avec une hausse des APL de 10%, un encadrement des loyers partout dans les zones tendues, une garantie universelle des loyers qui serait plus concernante que Visal, qui est déjà très importante, la garantie universelle des loyers qui se substituerait à Visal et qui permet d'avoir une garantie contre les impayés de loyers pour les propriétaires, mais là elle ne concerne qu'une partie des locataires. Cette garantie universelle concernerait tout le monde. Donc voilà, vous faites votre marché sur tout ce qui se passe. Mais je voulais vous donner à peu près toutes les propositions sur ce secteur.
Voilà, encore une fois, ils font pas trop de pub autour et c'est vrai que c'est intéressant.
Surtout par les temps qui courent, on parle d'une crise de logement, mais en effet c'est assez inédit et personne n'a l'air de s'en soucier. Mais Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on part sur des choses peut-être un peu plus.
Mais oui, et en plus, on fait des matchs avec
voilà.
Steven.
C'est,
et
oui,
en fait,
c'est vos fameux matchs, là.
Mais oui, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose aujourd'hui,
alors,
Steven?
Aujourd'hui, l'idée, c'était quand même qu'on parte sur un ton un peu plus léger, qu'on parle un peu de vacances. Ça y est, l'été revient. On va tous s'interroger. Alors, j'espère que c'est déjà fait, mais en tout cas, sur nos destinations durant cette période estivale. Il y a quand même deux régions qui ressortent souvent et assez bien, qui sont assez plébiscitées par les Français. C'est quand même la Bretagne, pour chercher un peu de fraîcheur et surtout des paysages authentiques. Et ensuite, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour rechercher un cadre un peu différent et
idyllique,
ces plages de sable fin, voilà. Et cuir, en effet, avec de fortes chaleurs. Donc, je trouvais que c'était intéressant de mettre en avant ces destinations touristiques par excellence, mais surtout de se dire et de s'interroger, est-ce que, et c'est les questions que moi, que mes clients me posent régulièrement, est-ce que finalement, ma destination que j'aime, avec ma famille, est-ce que ça ferait sens en termes d'investissement immobilier? Et c'est souvent une question qui est souvent posée, et on le verra, c'est pas forcément la bonne des réponses, puisque on va mêler un peu de l'affectif avec finalement de l'immobilier sur une notion plutôt quand même financière en termes de rendement. Donc les deux généralement sont assez compliqués, mais on le verra au cas par cas. Il y a quand même de belles opportunités.
On commence par quelle ville ?
On va commencer par Vannes. Je suis breton, donc autant en profiter. Vous connaissez sans doute, j'imagine très bien tous les deux. Je ne sais pas si on démarre tout de suite peut-être par les notes. On annonce le résultat, on le fait à la fin.
J'aime bien qu'on le fasse à la fin, comme ça on peut essayer de faire des paris.
Comme ça on raconte l'histoire.
On raconte l'histoire de ces deux villes et on voit ensuite le résultat et on en discute
alors
ensemble.
Alors les atouts de Vannes déjà,
Déjà forcément, on va parler un petit peu du paysage du Morbihan qui est juste exceptionnel. Voilà, c'est un cadre de vie, c'est des remparts médiévaux, c'est son port pittoresque et ses maisons à calembages. Donc il y a quand même...
Un club de rugby qui va se retrouver en top 14.
J'ai vu ça.
Attention.
J'ai vu ça. J'allais quand même parler de la
Le prisme mais... d'Antoine.
Mais non, mais attends, c'est des touristes. C'est des gros matchs.
Ouais.
C'est ça veut dire on va agrandir le stade, on va accueillir plus de gens. C'est... Voilà, c'est le premier gros club breton dans l'élite du rugby.
Et surtout qui tombe à Vannes, qui est quand même l'une des villes touristiques par excellence. C'est quand même 3 millions de visiteurs chaque année. C'est quand même une ville quand même assez importante.
Hein, 3 millions de visiteurs
chaque année.
Pour combien finalement de locaux ?
On a 53 000 habitants.
Ouais.
Donc je vous laisse imaginer un petit peu. Donc il y a. Et de toute façon, là, c'est à la fois l'un des points forts, mais l'un des désavantages de Vannes. Voilà, sa principale richesse économique est quand même très orientée sur le tourisme. On verra, il y a quand même d'autres secteurs comme l'industrie ou encore l'agroalimentaire. On a Enaf notamment qui est présent, mais ça reste quand même très limité. Et on a quand même une dépendance quand même assez soutenue, assez importante vis-à-vis du tourisme. Donc ça, c'est quand même un point fort. Est-ce que véritablement le marché locatif peut être intéressant sur de l'immobilier classique, hein, je parle sur un bail classique de 3 ans ou
oui, parce que c'est ça le sujet. Hein.
Le sujet est là. Et on a un taux de propriétaire qui est quand même supérieur à la moyenne nationale. Donc finalement,
Les prix sont comment à Vannes, justement?
Les prix sont quand même assez attractifs si on se compare et si on se réfère notamment à Rennes ou encore à Nantes. On est globalement à 3600, 3800 euros du mètre carré. Donc ça reste quand même pertinent. On va dépasser les 4000 euros du mètre carré pour une maison.
Ouais.
Là aussi, où on peut s'interroger sur le plafond de verre de Vannes, c'est en termes d'évolution des prix. Si on regarde là au cours des 5 dernières années, ça a été plus 35% pour un appartement. Plus 50% pour une maison. Si on regarde au cours des 10 dernières années, c'est plus 80% pour une maison. Et c'est quasiment plus 60% pour un appartement.
Ah ouais, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout, quoi?
Justement. Et on le verra sur les notes. Je pense qu'à mon avis, on n'arrive peut-être pas sur un plafond de verre, mais sur peut-être une limite. Puisque, voilà, malgré l'attrait touristique, je ne pense pas que les prix vont encore, en tout cas, se développer, en tout cas, augmenter. Sur les
et puis, il y a l'enjeu économique et de transport, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, comme vous parliez, Stéphane, du fait que c'était une ville quand même essentiellement touristique, est-ce qu'il y a beaucoup d'industries, de travailleurs? Est-ce que c'est beaucoup de télétravail? Et donc, du coup, est-ce que les transports, est-ce que le train, est-ce que... Enfin, voilà, comment ça se passe?
Alors, ça reste une...
Parce que ENAF, le télétravail, on ne peut pas fabriquer le pâté de chez soi.
C'est compliqué.
Oui.
Mais voilà, l'agroalimentaire est quand même bien représenté. On a des secteurs du tertiaire. On a le tourisme sur lequel on ne peut pas géolocaliser finalement l'ensemble des salariés et l'ensemble des travailleurs qui sont liés au tourisme. Donc il y a quand même une économie locale qui est amenée à rester. C'est une ville qui est connectée. On a quand même la présence de la gare TGV qui amène à 2h30 à la capitale. C'est une heure pour Rennes, 4h pour Bordeaux. On a un réseau de bus qui s'est bien développé. Mais voilà, ça reste, je dirais, cantonné à principalement la gare TGV qui d'ailleurs va se transformer en un véritable pôle d'échange multimodal à horizon fin 2024 pour devenir un vrai hub et connecter, je dirais, l'ensemble des modes de transport. Mais ça reste cantonné, je dirais, à une gare TGV.
Alors traditionnellement, après avoir fait les atouts, on fait les désavantages. Mais là, j'ai l'impression qu'à chaque atout, vous nous donniez déjà le désavantage.
Je fais un petit mix, mais j'essaie de tout doucement donner quelques indices sur les notes que je vais donner par la suite. Mais non, en tout cas, ça reste une ville connectée. Ça reste aussi une ville jeune. On a quand même 8000 étudiants, principalement sur l'université Sud-Bretagne. Et ça reste, je dirais, quand même une une ville, peut-être un marché de report, si on parle, on est bien parlé de profil d'investisseurs.
Ouais.
Voilà, pour ceux qui veulent s'intéresser à la Bretagne, qui pourquoi pas ont aussi une optique de saisonnier, puisque on peut typiquement.
Oui, c'est ça en fait. On n'est pas sur un investissement locatif traditionnel.
Non, alors on peut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le risque locatif, il n'est pas nul, mais en tout cas, ce sera loué. On a un rendement locatif qui est bon, puisque globalement, je vous parlais des prix à 3 800 € du mètre carré pour un appartement, un peu moins de 5 000 € pour une maison. En face, on a un loyer moyen de 11 € du mètre carré, ce qui fait que globalement, on est sur un rendement locatif de 5%. Donc, c'est pas inintéressant. Et là, je retire le saisonnier, qui permettrait forcément d'aller atteindre un rendement plus important avec des risques de vacances et autres qui sont aussi plus importants.
Mais comme vous le disiez, comme il y a une part d'achat plaisir quand on va aller vers Vannes, est-ce que c'est pas effectivement le profil plutôt de la résidence secondaire que je vais essayer quand même de monétiser via de la location ponctuelle en saisonnier?
Et on est vraiment sur l'investissement et on en parlait, l'achat plaisir. À Vannes, on y est. On le verra d'ailleurs en Tibes. On peut y être aussi, même si on va être sur des prix qui sont quand même un peu plus élevés. Donc sur un profil d'investisseur aussi un peu différent. Mais en effet, on a, via les prix attractifs, on a quand même un investissement qui peut répondre en effet à ce côté plaisir, mais qui sera tout à fait aussi optimisé via du saisonnier.
On part à Antibes du coup ?
Pas tout de suite.
Je suis breton.
On va quand même terminer sur quelques projets, parce que je parlais de ce pôle d'échange multimodal qui devrait avoir le jour au niveau de la gare à Vannes d'ici fin 2024. Il y a d'autres projets qui arrivent, notamment la ZAC du Conlo, qui est un grand projet de réaménagement de 22 hectares dans lequel on va retrouver, et ça c'est assez habituel, une mixité sur du logement, du bureau, du commerce et espace vert. C'est un projet de 250 millions d'euros qui devrait démarrer l'année prochaine et s'achever en 2028. Donc ça c'est quand même positif. Il y a encore du nouveau logement qui arrive, et ça, aujourd'hui, il faut quand même le souligner. Le campus universitaire va aussi s'agrandir, et il y a également la valorisation du front de mer pour, je dirais, encore améliorer la qualité de vie des habitants. Donc il y a quand même des projets, je dirais, sympathiques. De là, est-ce que ça va augmenter la note? On le verra. Je ne sais pas si déjà vous avez quelques indices. Mais ouais, peut-être.
Moi, je suis sûr quand il gagne. Mais de toute façon, j'attends que vous me disiez quand on part pour Antibes, puisque visiblement, c'est quand vous voulez.
Eh ben, on peut parler sur Antibes, qui est quand même le joyau méditerranéen. On va peut-être pas revenir un petit peu sur ces plages idylliques et sur le climat ensoleillé de la Méditerranée. Mais c'est vrai que.
Festival de jazz.
Exactement. On a aussi le Ramatuelle Festival avec des projections cinématiques ou musicales dans des magnifiques domaines entourés de vignes. Donc, voilà, je pense que Antibes est mondialement connu, puisque voilà, on a quand même une clientèle internationale assez développée et assez importante au niveau d'Antibes.
Et en nombre d'habitants, à chaque fois, je...
Alors, on était à peu plus de 50 000 habitants sur Vannes. On va être légèrement inférieur à 80 000 habitants sur Antibes, donc c'est un peu plus important. On va avoir, certes, là aussi, un attrait touristique très fort. On est à 3 millions de visiteurs à Vannes, on est plutôt à 2 millions. C'est quand même assez important. Mais vraiment, avec une dimension peut-être plutôt internationale sur Antibes, à commencer par son port de renommée mondiale, puisque c'est le premier port de plaisance qui peut accueillir, je dirais, le plus grand nombre de places de super yachts. Donc là, on est vraiment plutôt sur le luxe. On va être vraiment sur des paysages et sur un format un peu différent. On va le retrouver aussi forcément sur
les prix.
Puisqu'on est sur un autre modèle, finalement, que Vannes. Mais il y a quand même...
C'est-à-dire, on est à combien des prix?
On est globalement à 6 100 € du mètre carré pour un appartement.
Ah ouais, quasiment le double sur les appartements.
Un petit peu moins du double, et on va dépasser les 7 000 € du mètre carré pour une maison. Ouais. En effet, on est vraiment sur un profil d'investisseur différent.
Sur cette géographie, en plus, les maisons, c'est des produits un petit peu plus rares.
Ce que je veux dire, c'est que là, l'appartement est encore accessible. Lorsqu'on parle de villa, je parlais de maison, mais de villa, notamment sur l'arrière-pays d'Antibes, là, c'est quasiment intouchable. Donc là, ça devient très compliqué. On est sur un marché un peu niche. Bon, ça reste quand même une ville aussi dynamique, parce que j'évoquais, je dirais, les désavantages de Vannes, ou d'un point de vue économique, qui sont quand même limités. C'est pas péjoratif, mais principalement
très dépendant du tourisme.
C'est un peu moins le cas quand même d'Antibes, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même je cherche le terme. Il y a et ça va arriver le fameux technopole Sophia Antipolis, le premier technopole d'Europe. C'est un peu moins de 40 000 salariés, c'est 2 500 entreprises, donc c'est quand même assez important, et ça fait partie intégrante d'Antibes. Donc là, il y a quand même une structure économique un peu plus poussée, en tout cas un peu plus aboutie, si on parle d'Antibes, notamment avec le rayonnement de deux villes voisines. On a Cannes, on a Nice, on a l'Italie qui est aussi à côté, Monaco. Ouais. Donc c'est vrai qu'elle jouit quand même d'une position géographique assez intéressante, assez importante, avec des prix certes, je dirais, élevés, mais ça va, je dirais, avec l'image et ce joyau de la Méditerranée.
Et des loyers tout autant élevés, on imagine.
Des loyers tout autant élevés, mais pas suffisants. On parlait d'un rendement moyen. Alors, c'est vrai qu'on ne rentre pas dans le détail de la typologie, ouais, etc. Mais un rendement moyen de 5% à Vannes.
Ouais.
On est globalement entre 3,8 et 3,9%.
Ah ouais. Donc, on retombe quasiment sur des rendements dignes des grandes villes, des très
exactement
grandes
voilà
villes.
Exactement. Bah, on est quasiment.
C'est un rendement de grandes
villes.
Ouais.
C'est un rendement de grandes villes. Mais parce qu'on est sur des prix aussi, finalement, de grandes villes.
Très élevés. Et là aussi, on parlait du plafond de verre pour Vannes. On en est où sur les évolutions à Antibes? Est-ce qu'on a déjà beaucoup monté? Est-ce qu'on peut avoir des perspectives? Parce que typiquement, dans les très grandes villes, on dit souvent, c'est pas tant le rendement qui compte, c'est la perspective d'une éventuelle plus-value en sortie. On en est où du côté d'Antibes?
Ça dépend de la stratégie. C'est qu'on peut se dire, finalement, je suis prêt à me mettre en risque vis-à-vis de la valeur de mon actif, même si à côté, en revanche, j'ai un rendement, en tout cas important. À l'inverse, on peut se dire, je suis prêt à acheter plus cher, perdre un peu en rendement, mais arriver sur une ville mature. Ça dépend un peu de la stratégie. Là, en termes d'évolution des prix, c'est forcément moins fort qu'à Vannes. On était à peu près à 26% d'augmentation des prix sur ces 5 dernières années pour un appartement. C'était un peu moins important pour une maison, plus 20%. Donc je ne pense pas, là en revanche, qu'on soit arrivé sur un plafond de verre. Je pense qu'il y a encore de la marge et on le voit notamment sur Nice où les prix continuent encore de grimper.
Alors après, il y a aussi une typologie d'investisseurs. On a beaucoup dit à Nice que si les prix baissaient pas et augmenter même encore malgré la hausse des taux d'intérêt, c'est aussi surtout parce que les acheteurs locaux sont souvent plus âgés qu'ailleurs et donc ils ont moins recours au crédit et moins impactés du coup par la hausse des taux. C'est le cas aussi.
C'est le cas aussi à Antibes et on est en fait sur une population alors pas identique mais en tout cas qui se ressemble énormément à celle niçoise. Ce qui est moins le cas à Vannes, j'en ai pas parlé, mais on est sur une population très jeune.
Plus jeune.
29% de la population à moins de 35 ans. Donc on est aussi sur une typologie d'habitants qui va être un peu différente et donc forcément on le retrouve sur le pouvoir d'achat et sur ce qui est possible de faire sur le parc immobilier. Et là aussi, Antibes peut tout à fait répondre à des besoins, notamment sur du saisonnier. On peut tout à fait trouver aussi l'achat
plaisir,
même si là, on va quand même s'orienter vers un ménage avec des moyens et un pouvoir d'achat.
Gros achat plaisir,
plus important.
Et sur les étudiants, justement, parce que souvent, c'est un peu le curseur quand on veut se lancer dans un investissement locatif. La part d'étudiants est souvent rassurante sur certaines villes en disant de toute façon, je trouverai toujours un marché locatif.
C'est un peu l'image que tout investisseur a, c'est de se dire je vise un studio, c'est étudiant, ça va fonctionner. Ce qui est vrai. Mais parfois un peu faux. Là, on a une proportion d'étudiants qui est moins importante finalement qu'à Vannes. On va avoir retrouvé 5000 étudiants.
Ah, je suis étonné.
Ouais, 5000 étudiants sur une population globalement de 80 000. Donc, on a quand même un ratio qui est moins important. Donc, ça reste quand même une ville un peu plus mature. Et j'entends de là les habitants, mais aussi la ville en elle-même, qui se repose sur son port, ses festivals, son dynamisme économique local au travers de la technopole. Et puis voilà, la qualité de vie qu'on va retrouver au travers.
Il nous reste qu'une minute, Stéphane. Il va falloir nous donner les notes. Moi, je vois.
Évidemment, Antibes gagne,
on est d'accord, c'est ça.
Antibes gagne, Vannes est juste derrière, mais on n'est pas non plus sur des très belles notes, on n'est pas sur des très bons élèves. C'est Antibes qui l'emporte avec une note de 11,6 sur 20.
On dirait moi.
Un élève moyen, on va dire.
C'est moi,
Un élève moyen. Vannes est juste derrière avec une note de 11,10 sur 20. Je rectifie. Donc voilà, ça dépasse la moyenne. C'est un bon élève. Et je vous parlais un petit peu des éléments qui ont fait qu'on est quand même pas sur des très belles notes. Et on peut les citer. C'est que on est quand même sur deux villes, principalement Vannes, qui dépend principalement du tourisme. Là, la notion de prix, on arrive quand même sur des segments, en tout cas, assez hauts. On est sur des rendements locatifs qui sont en tout cas assez faibles. À Antibes, un peu plus important à Vannes, mais on est quand même sur deux villes où principalement le saisonnier peut s'avérer intéressant. Voilà, tous ces éléments ont fait qu'on n'est pas non plus sur de très très bons élèves, mais ça reste intéressant. Il y a encore de belles opportunités.
Du coup,
soit Antibes et Vannes.
Primo investisseur plutôt Vannes et puis investisseur confirmé plutôt Antibes.
Exactement. Et avec dans les deux cas quand même cette notion d'achat plaisir pour éventuellement profiter durant
location saisonnière.
Exactement.
Et rentabiliser le.
Voilà. Après méfiance tout de même avec la notion de réglementation. On est en plein dedans, même si pour le coup, c'est gelé. Mais faire attention aussi, ne misez pas uniquement sa stratégie, uniquement sur du meublé saisonnier.
Mais d'où le principe, vous le répétez souvent, Stéphane, et tant mieux, voilà, diversification. Et puis surtout, là, vous parliez d'achat plaisir, donc il y a aussi l'usage. Voilà.
C'est si important, c'est partie non négligeable de l'intention d'achat. Marie Cœur de Roy, merci d'avoir été avec nous. Et Stéphane Briand, en charge du pôle immobilier chez Net Investissement.
Merci Antoine.
Merci
Marie, à très vite.
Bonne journée. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes dans Tout pour investir. On sera avec Romain Joudla pour répondre à vos questions. Il sera question de taux et de dynamique monétaire. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigaudry.
Allez, c'est le moment de l'émission Tout pour investir, où on se consacre à vos questions, à nos réponses, bien évidemment. Et on reçoit Romain Joudla, cofondateur de Colbert. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, on va parler taux, on va parler dynamique monétaire, c'est un des catalyseurs de marché du moment. Comment une baisse de taux pourrait rabattre les cartes de votre stratégie d'investissement? Alors,
on va dire, baisse de taux. C'est vrai que ces derniers temps, en plus, si on regarde l'actualité récente, elles se font un petit peu attendre. Ça a un peu commencé du côté de la BCE. Alors, on voit, ça c'était l'ingrédient surprise, plutôt du côté de la Banque du Canada, de la Banque de Suisse, qu'il y a des baisses de taux. Mais concernant la Fed, celle qu'on attend le plus, ça se fait attendre.
Exactement, mais aujourd'hui on considère qu'il y a, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de fluctuations sur les anticipations de baisse des taux d'intérêt depuis le début de l'année. Je ne vais pas rappeler, je crois que les plus ambitieuses étaient à 7 fois pour la Fed, oui. Jusqu'à une fois aujourd'hui. Donc il est clair qu'on a eu aujourd'hui pas mal de fluctuations de ce côté-là, mais il nous semble qu'il y a des éléments aujourd'hui plus clairs et plus sûrs qui nous permettent raisonnablement de penser qu'on pourrait avoir une nouvelle donne de baisse des taux d'intérêt. En tout cas, qu'il faudrait la prendre en compte dans sa stratégie d'investissement, puisque ça touchera probablement les marchés obligataires certainement, mais les actions, mais aussi l'immobilier. Donc il faut avoir un avis, comprendre cette actualité, avoir un avis dessus pour pouvoir décider de sa politique d'investissement.
Bon, malheureusement, on a l'impression d'une sorte de fragmentation entre différentes zones géographiques. Mm-hmm. C'est vrai que les États-Unis, ils hésitent toujours à enclencher la machine, tout simplement parce que l'économie, elle est encore archi-dynamique, que les dynamiques d'inflation, elles restent fortes, et que ils veulent pas finalement donner le signal général sans avoir des indicateurs vraiment très clairs et et indiscutables finalement.
Oui, alors on a eu quand même des éléments un peu plus favorables dernièrement, comme le rapport d'inflation du mois de mai, où on a eu une inflation sous-jacente qui est passée de 3,8 à 3,6 et qui, dans un monde où effectivement on est plus sur des anticipations à plus de 7 fois de baisse de taux sur l'année, mais plutôt à une fois voire deux fois, semble effectivement tout à fait cohérente. Donc les marchés d'ailleurs s'attendent à une baisse, une première baisse en septembre et une deuxième baisse potentiellement en décembre, et tout ça pourrait arriver dans un contexte où certains indicateurs macroéconomiques, au contraire, montrent un ralentissement aux États-Unis. Et puis tout ça dans un contexte quand même politique de réélection. Totalement. Où on n'a pas envie qu'un resserrement monétaire vienne gréver l'économie. Donc au contraire, on a aujourd'hui quelques signaux qui laissent penser qu'en tout cas pour au moins une, voire deux hausses de taux, le scénario nous semble un peu plus clair et raisonnable.
Alors pour l'Europe, on a toujours la même préoccupation, à savoir la lutte contre l'inflation. On a eu un premier signe encourageant de la part de la BCE. Maintenant, on sort d'élections européennes qui ont un peu rabattu les cartes, avec une montée des forces populistes, avec des équilibres politiques qui sont en train de complètement changer. Enfin, je pense notamment à la forte baisse de l'impact des Verts, que ce soit chez nous, que ce soit en Allemagne. On voit que c'est des classes politiques qui sont très très dynamiquement liées aux anticipations de politique monétaire et de politique économique de manière générale. Bon, là, le tableau est en train de se flouter alors qu'il paraissait plutôt clair il y a quelques mois.
Il est clair que l'environnement et le risque politique a très clairement changé un petit peu l'évolution des taux d'intérêt et la dynamique qui a été enclenchée par la BCE au mois de juin avec, je le rappelle, une baisse de 25 points de base qui était quand même une première depuis 5 ans. Mais au-delà de ça, effectivement, il faut prendre en compte cet environnement politique. Cet environnement politique, si on prend un petit peu de recul, alors je n'ai pas de boule de cristal, mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde du côté de nos voisins italiens, on a eu quand même des scénarios un peu équivalent et en période d'élection à l'époque on avait eu une hausse justement du spread jusqu'à à peu près 100 points de base pour revenir finalement à une situation assez normale sans impact économique au bout de 3 à 6 mois. Donc dans ce contexte, on pourrait raisonnablement penser finalement que entre la première baisse des taux de la BCE, les attentes de baisse de taux supplémentaires en septembre et en décembre, quand on interroge les économistes, ils sont quand même 80% à penser qu'effectivement on ira dans cette direction. On considère que ce risque politique pourrait renforcer en plus ces anticipations et inciter la BCE à agir davantage.
D'accord. Est-ce que le risque politique, c'est pas finalement l'arbre qui cache la forêt ?
Le risque politique, c'est vrai qu'on reste très concentré dessus, mais comme je le disais, si on prend un petit peu de hauteur aujourd'hui et qu'on regarde plutôt les dynamiques d'inflation, qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, l'indicateur central qui permet de diriger les politiques monétaires, on voit que finalement, on a eu la semaine dernière, certes, une baisse effectivement du taux de la Banque centrale suisse, mais on a eu également deux baisses baisse en fait de l'indice des prix à la consommation en Angleterre et également au Japon. Tout ça dans un contexte où aujourd'hui, on considère qu'en fait les banques centrales souhaitent garder une certaine marge de manœuvre puisque le resserrement, on arrivera dans un environnement de resserrement budgétaire vraisemblablement. Et on a aussi d'autres banques centrales comme la Fed, on le disait en septembre, mais potentiellement aussi la Banque centrale européenne, anglaise, qui pourrait également baisser ses taux. Donc, dans cet environnement où finalement on est plutôt en haut de cycle de taux d'intérêt, on a des anticipations qui ont été plutôt pricées à la baisse, un risque politique. Est-ce que effectivement, c'est pas le bon moment pour faire évoluer un petit peu sa stratégie et profiter de certains actifs, comme par exemple l'obligataire ou certaines typologies sur le marché immobilier?
Alors justement, voilà, conséquences directes sur votre épargne. Est-ce qu'il y a des arbitrages à faire en fonction de tout ce qui est en train de s'inscrire dans les cours? Qu'est-ce que vous regardez, vous?
Alors, peut-être juste un petit peu de pédagogie sur l'incidence, effectivement, d'une baisse des taux d'intérêt très rapide. Donc, le taux d'intérêt, en fait, c'est ni plus ni moins que le coût de votre capital, le coût de l'argent.
Le loyer de
l'argent. Voilà, vous allez emprunter de l'argent pour acheter un bien immobilier, ça vous coûtera plus cher si le taux monte et inversement. Et ça a un impact également sur les valorisations des entreprises, puisque les valorisations des entreprises, la plupart du temps, se valorisent en regardant en fait les revenus futurs qu'on additionne et qu'on actualise pour en connaître la valeur actuelle. Donc plus les taux sont bas, plus le dénominateur est faible et donc la valeur de l'entreprise reste importante. Donc de ce point de vue-là, on comprend bien que si on a un scénario de baisse des taux, on va avoir pour de nombreux actifs un phénomène de hausse de prix, en tout cas d'une manière théorique, et on aura aussi, d'autant plus un effet différencié sur certains secteurs et modèles économiques. Certains secteurs, par exemple, endettés, comme l'immobilier, qui en profiteront davantage, ou certains modèles économiques, où les revenus futurs sont encore plus futurs, comme par exemple les secteurs technologiques. Donc une fois qu'on sait ça, on peut se positionner dans l'univers des flashements et adapter sa stratégie.
Alors, quel type d'actifs précis ou de sociétés on peut privilégier en cas de baisse des taux, là, vraiment très concrètement?
Ouais, bien sûr. Bah alors, très concrètement, déjà, je pourrais peut-être différencier votre stratégie d'investissement en fonction, je dirais, de l'épargne de précaution et peut-être les investissements à plus moyen long terme. Sur l'épargne de précaution, il est clair qu'il va avoir un impact direct. En dehors du livret A, sur lequel on a un engagement jusqu'à 2025, on aura des livrets dont les taux vont baisser, donc la rémunération de votre cash va baisser. Donc, première question, est-ce que déjà, j'ai pas trop de cash sur mes livrets? Deuxième question, où est-ce que je peux les placer? Donc là, il y a des opportunités conjoncturelles, tactiques, puisque certains assureurs qui ont réinvesti en fait leurs fonds euros sur des nouvelles obligations dont les taux de rendement ont monté, aujourd'hui vous permettent sur 1 à 2 ans de profiter de taux de rendement plus élevés et en plus parfois avec des taux bonifiés vous permettant de rentrer sur des rendements supérieurs à 4 voire 4,5%. Et de manière plus moyen long terme, là, en fonction de si vous êtes sur les marchés financiers, sur le private equity ou sur l'immobilier, il ne faudra pas du tout aborder ces classes d'actifs de la même manière.
Totalement, voilà, c'est ça. Et de quelle manière, à ce moment-là, on fait l'arbitrage?
Alors, sur l'immobilier, déjà, je pense que tout le monde l'a en tête, la hausse des taux a quand même notamment...
Légèrement refroidi le marché.
Légèrement refroidi le marché. Et quand on regarde le marché de l'épargne, notamment les SCPI, les OPCI, qui sont très clairement les produits d'épargne les plus connus et qui représentent encore une fois 95% de l'immobilier commercial et non pas du résidentiel, la baisse des taux, la seule baisse des taux ne sera pas le seul indicateur à regarder. On a connu l'évolution des usages avec le télétravail, on a connu l'e-commerce qui a impacté également les centres commerciaux et le commerce de centre-ville. Donc il faut regarder ces éléments-là. Donc attention, ne retournez pas massivement sur l'immobilier. Par contre, je considère à ce stade, ou en tout cas on considère chez Colbert, qu'il y a des opportunités, notamment sur l'immobilier de qualité, sur lesquelles on a eu des décotes peut-être trop importantes.
Ah,
et les deux modes de détention en question, c'est d'une part des SCPI prime, donc il y en a très peu, qui ont de l'immobilier, notamment en plein Paris, sur lesquels, sur le marché secondaire, vous pouvez acheter un portefeuille que vous connaissez avec des décotes de 30 à 40%.
Ouais.
Et là, il y a un peu de volume, parce qu'il y a des instits qui se séparent de leur position.
Ouais.
Le deuxième sujet, c'est l'immobilier coté. On a sur du bureau prime, certaines valeurs, sur des centres commerciaux ou encore sur du résidentiel allemand. Là, des très fortes décotes, pareil, de 30 à 40% avec des rendements élevés, qui nous permettraient, en cas ne serait-ce que de stabilisation des valeurs d'expertise, liées à au moins la stagnation des taux, voire des premières baisses de taux généralisées, d'avoir une recovery assez importante.
Bon, est-ce que le market timing, puisque bon, on sait que c'est vraiment le timing et la détermination dans le temps de ce qu'on fait en termes d'investissement qui prime. Est-ce que le moment, la fenêtre de tir est idéale en ce moment? Ou est-ce que vous pensez que... il y a peut-être moyen d'attendre encore un petit peu ou de s'ajuster légèrement.
Alors, le market timing me semble idéal sur certaines classes d'actifs. Typiquement, les modes de détention dont je viens de parler sur l'immobilier, ouais, ça me semble être un bon market timing. Mmh. Sur l'obligataire, ça me semble être aussi un bon market timing sur certains segments.
Aujourd'hui, oui, j'allais vous dire, pas tout. Ouais, là, sur l'obligataire, il y a débat.
Non, exactement. Ouais. Et sur certains segments, on considère que même si on n'est pas sur les points les plus élevés de la courbe, on a des rendements qui sont aujourd'hui élevés, notamment sur des obligations d'État et de l'investment grade. Et si on ajuste un petit peu la duration en allant sur des durations moyennes ou un petit peu plus élevées, on pourra profiter à plein de... cet engouement pour la baisse des taux, en ayant dans une situation inverse, ou en tout cas, on a un événement exogène qui survient, un potentiel de perte assez faible. Donc on considère que le marché obligataire, sur des durations longues et des notations de qualité, on a des rendements aujourd'hui qui sont élevés et un potentiel de performance en capital qui est présent.
Ouais, selon vous, les rendements sont vraiment en haut de cycle là?
Les rendements aujourd'hui prennent en compte quand même aujourd'hui tout un tas de scénarios. Alors, ils prennent, comme je le disais en fait, d'une part un risque politique, ils prennent aussi en compte le fait qu'on a eu des anticipations de baisse de taux qui ont été largement revues à la baisse depuis le début de l'année. D'ailleurs, le marché obligataire a pas fait grand-chose depuis. Donc, il peut être raisonnablement intéressant de prendre position progressivement sur cette classe d'actifs en ajustant la duration régulièrement en fonction de l'évolution des taux d'intérêt.
D'accord. Alors, comment on intervient? Comment on investit dans ce nouvel environnement? Alors, suivant des stratégies qui peuvent être très, très disparates, qu'est-ce que vous recommandez là-dessus?
Autant on peut être opportuniste, comme je le disais, sur certaines typologies d'actifs, certains modes de détention, autant sur d'autres classes d'actifs, ou même l'épargne de précaution avec, effectivement, les taux bonifiés. On a également d'autres classes d'actifs, comme par exemple le private equity, où là, on construirait des positions, je dirais, plus sur le long terme, parce que le marché du private equity par exemple déjà est plus risqué et a subi de fortes baisses des transactions liées à la remontée des taux, et très clairement, même si l'environnement inverse va profiter à cette classe d'actifs, ça va se faire plus graduellement. Donc n'investissez pas massivement sur un portefeuille de private equity aujourd'hui, faites-le progressivement de manière intelligente en rentrant sur des vintages différents progressivement, et surtout sur des fonds diversifiés.
Alors, sur les obligations, est-ce que c'est pas un petit peu la porte qui est en train de se refermer et c'est maintenant ou jamais?
En tout cas, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On considère aujourd'hui, même si encore une fois, on peut rentrer peut-être sur des niveaux de valorisation plus élevés, que d'une part, c'est une classe d'actifs, alors déjà qu'on n'avait pas ces dernières années et qui est indispensable aujourd'hui dans la gestion des risques de son patrimoine, mais aussi dans la captation de rendement. Et sur les niveaux actuels, tant les niveaux de rendement en absolu qu'en relatif semblent intéressantes, et dans cet environnement de baisse des taux, on en profitera. On peut raisonnablement penser que on pourra même avoir des hausses à deux chiffres si on a une baisse des taux d'intérêt qui est significative.
Ok, l'immobilier, bon, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que il n'est pas temps de vraiment s'inscrire dans une optique de aller chercher la recovery, une forme de gestion value, comme on dit sur les actions, c'est-à-dire vraiment d'en profiter maintenant pour profiter d'une recovery?
Ouais, c'est un argument qui a été souvent avancé effectivement par de nombreuses sociétés de gestion qui créent des nouvelles SCPI et qui vont investir effectivement de l'argent frais sur le marché avec potentiellement des prix qui sont plus raisonnables. Moi, je considère, comme je le disais tout à l'heure, qu'il vaut mieux investir et privilégier en fait des patrimoines que l'on connaît et qui sont de qualité, encore une fois, pour de l'immobilier de bureau, du prime, pour des commerces plutôt, des commerces de qualité bien positionnés. Et sur le résidentiel, de toute façon, sur le marché, on n'est que sur du résidentiel allemand. Et là, pour le coup, l'environnement, la qualité de la classe d'actifs et son environnement, je dirais, à long terme, laisse penser qu'effectivement, c'est une bonne opportunité. Mais attention, du coup, faites-le que sur les classes d'actifs et les modes de détention qui vous le permettent.
Oui.
Voilà.
C'est-à-dire de pas non plus avoir les yeux plus gros que le ventre et justement peut-être commencer à y aller via des SCPI, via des produits financiers indexés ou quelque chose de cet ordre d'idée-là.
Et exactement, plutôt comme je le disais, les foncières en bourse ou alors des SCPI qui ont déjà constitué leur patrimoine. Attention, même s'il y a une prime de risque qui est valorisée dans des SCPI qui ont déjà baissé leur prix de part, etc., il faut attendre vraiment la stagnation des expertises pour s'assurer qu'on aura vraiment un arrêt des baisses des prix de part d'ici 2025.
D'accord. Les actions, on en parle et c'est vrai qu'on est un peu à l'heure des braves, entre pas très loin des records absolus. Là, je pense à Bourse de Paris, Wall Street, on y est depuis un petit moment. Et puis, une forme d'instabilité politique et géostratégique, j'allais dire. On a un climat vraiment très, très curieux sur les actions. Du coup, vous vous positionnez comment ?
Alors, aujourd'hui, sur les actions, il est clair qu'après la hausse de ce début d'année, et qui tient compte d'ailleurs notamment de la baisse des taux de la BCE, et qui avait d'ailleurs anticipé ce phénomène, il est clair qu'on ne va pas mettre tout son patrimoine sur cette classe d'actifs. Néanmoins, il nous semble indispensable de rester positionné, et même, je dirais, de positionner d'une manière non pas neutre, mais supérieure, pour avoir une exposition qui, d'une part, vous permette de bénéficier de cette classe d'actifs qui, dans un scénario de baisse d'intérêt, justement, profite d'une revalorisation, et par ailleurs, de peut-être privilégier certains segments qui ont fortement baissé. On parlait des foncières cotées, mais aussi les petites et les moyennes entreprises ont des très très fortes décotes, et si on a justement une reprise des marges et des bénéfices sur ce segment, la baisse des taux pourrait être un catalyseur qui fera remonter ce marché.
Dernier aspect, on en parlait justement l'heure d'avant, l'opportunité d'investir dans le private equity. C'est vrai que c'est quelque chose de toujours plus populaire notamment chez les nouveaux investisseurs. Comment vous voyez la chose, vous ?
Alors, c'est pas fait pour tout le monde, puisque effectivement, c'est vraiment une petite partie de l'épargne qui doit être investie à très long terme et qui est risquée. Néanmoins, aujourd'hui, dans cet environnement, je vous invite à faire deux choses. Premièrement, si vous avez peu d'épargne long terme que vous pouvez mettre sur des placements risqués, allez plutôt sur des fonds diversifiés, comme je le disais. Et si vous avez la possibilité de construire un portefeuille plus large, là vous pouvez regarder d'une part les stratégies de secondaire qui profitent aujourd'hui justement de décotes sur certaines participations, ou des stratégies plus prudentes comme les infrastructures ou le parallèle lending sur la dette privée.
Merci beaucoup Romain Joudla, merci d'avoir été avec nous, cofondateur de Colbert.
Merci Antoine.
Merci et à une prochaine fois.
Avec plaisir.
Nous sommes avec Amaury de Tonquédec. Alors on parlait de choses à investir en matière de diversification, peut-être de manière prudente, et on va évidemment parler des cryptos, bien entendu. Alors je regardais là sur mon scope, on est à 61 000 sur le Bitcoin,
ouais,
on est
ça.
Bien remonté, mais alors là ça a été dur, là ces trois derniers jours, ça a plongé d'un coup. Et on a bien du mal à s'en remettre, visiblement.
On est effectivement passé même sous les 59 000 dollars brièvement hier.
De mémoire, le prochain support, c'est 56 000. C'est les plus bas de ces derniers mois, en fait.
C'est ça. Ouais. Bon, alors, on n'est pas sûr de les toucher encore. Il y a tout un tas d'éléments qui pourraient nous faire penser, encore une fois, je parle au conditionnel, qu'on serait sur le point bas du mi-cycle. C'est-à-dire que là, justement, vous en parliez à l'instant avec Romain Joudla, que faire ? Quelle stratégie adopter en cas de baisse des taux ? On a une baisse des taux, en tout cas du côté de la Fed, qui devrait arriver une première en septembre et potentiellement une deuxième au mois de décembre. Évidemment, ça bénéficie ça aux actifs risqués, que sont les cryptos notamment. Donc, il y a cet événement positif qui devrait arriver. Il y a l'institutionnalisation du marché qui continue. On a les ETF Ethereum Spot qui devraient être listés là dans quelques jours, au début du mois de juillet. On a les élections américaines qui, historiquement, sont positives pour ce marché-là. En plus, avec des cryptos qui n'ont jamais été aussi présentes politiquement, on voit que Donald Trump devient carrément un ambassadeur des cryptos. On voit même que Joe Biden, son équipe qui n'était pas très partante au départ, sont obligés de s'y mettre parce qu'ils voient que politiquement, ça rapporte, entre guillemets. Donc voilà, là, il y a un marché qui est pessimiste, mais ça ne devrait pas durer, encore une fois, je parle au conditionnel, parce que les bonnes choses qui sont dans les cours, dans le marché, n'ont pas changé et devraient arriver dans les semaines à venir. En général, le marché repart 100 jours après le halving. Là, on est à bientôt 70 jours. Donc encore, a priori, que quelques semaines à attendre avant que ça reparte. Encore une fois, ceci n'est pas inconscient en investissement, mais
a priori, on est sur un point d'entrée plutôt intéressant.
Mais oui, mais c'est vrai que si on regarde la courbe là, qui est passée à l'antenne, là, on voit vraiment la cassure, la remontée. Est-ce que c'est le moment? 61 390 dollars pour le Bitcoin. Avec vous, BFM Business, avec vous dans quelques minutes. Bonjour, il y a Sandra Gandois. Bonjour. De quoi parle-t-on?
Plein de questions sur la vie en entreprise, comme tous les jours. Par exemple, un salarié peut-il dire ce qu'il veut sur son entreprise en dehors de son temps de travail? On va poser la question à notre juriste Xavier Dulin. Comment gérer une ambiance toxique au travail? Je suis une femme sans enfant et je suis exclue des politiques d'égalité femmes-hommes. Comment je fais? Puis on va parler aussi de cybersécurité, de Jeux Olympiques, de management, de leadership et de toutes les questions que vous allez nous poser. Il y a une adresse à connaître avec vous à bfmbusiness.fr. On est là avec nos experts en direct jusqu'à 13h, Antoine.
Et on vous retrouve là dans un instant avec Sophia Naklouf. Merci d'avoir été à l'écoute de Tout pour Investir. Demain, vous retrouverez Lorraine Goumeau. Et en attendant, on va écouter Julie Cohen-Horton et ses placements verts. Comment s'y retrouver à travers la myriade de labels et de normes d'investissement vert? C'était il y a quelques semaines au sein de Tout pour Investir. Écoutez-la.
Tout pour Investir sur BFM Business.